The Craft Project est un média engagé à faire grandir l'appétit pour les métiers d'art en donnant la parole à ceux qui les exercent. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit en mêlant la technique du virtuose, la malice de l'inventeur et la poésie du créateur. Professionnels des métiers d'art, étudiants, institutions, écoles, passionnés, au carrefour de tous les acteurs du secteur, nous écoutons, nous racontons, nous relayons, nous rassemblons. Nous sommes engagés pour montrer les métiers d'art tels que nous les vivons, exigeants, créatifs, innovants et désirables. Nous sommes engagés pour contribuer à ce que les métiers d'art soient plus souvent choisis, plus souvent transmis et plus souvent achetés. Nous sommes engagés parce que nous voulons résister à l'uniformisation du monde et que nous pensons que l'art de la matière est une arme pour faire à nouveau régner la beauté dans nos cités, dans nos vies et dans nos cœurs. Je suis Raphaëlle Lebeau et aujourd'hui, j'interroge Brian Raquin. Brian Raquin est coutelier. Brian Raquin forge en suivant son désir et sa matière, faisant de chaque matin une aventure. Les chefs et les collectionneurs attendent, comme tout le monde, qu'un couteau soit prêt à être acheté. Depuis 3 ans, je sais que je vais le podcaster, qu'il faut que ma route passe par son atelier. Aucune route ne passe par là. Il faut venir pour ça, il faut venir pour lui. Il faut venir pour découvrir dans ses mots, dans sa voix, le choc du marteau qui cogne et la douceur du métal qui ploie. Il faut venir pour rencontrer sa femme, Marmaine, dompteuse de fleurs, et goûter le vin exceptionnel qu'il troque contre ses couteaux. Alors j'y suis allée et je vous ai emmené avec moi. Bonjour Brian Raquin.
Salut Raphaël.
Comment la matière est entrée dans votre vie ?
Depuis l'enfance, je pense, avec mon père qui bricole tout le temps, mes parents qui bricolent tous les deux, depuis toujours. Et puis, pas très doué à l'école, donc envoyé dans les filières un peu manuelles.
Il bricolait quoi, votre papa ?
Tout. Tout ce qu'il pouvait fabriquer, il le faisait. Il a fini sa maison, il a toujours bricolé. Il bricolait ma mobilette pour que je puisse aller traîner un petit peu. Tous ces trucs-là, quoi. Donc, et
c'était pas son métier ?
Ah non, du tout. Mon père travaillait à l'usine. Il fabriquait des pneus.
Et votre maman ?
Une préparatrice en pharmacie.
Et donc la matière est arrivée par le bricolage, par la débrouille ?
Ouais, un peu, ouais. J'ai tenu un marteau très rapidement, des clés très rapidement, les mains dans le cambouis très rapidement. Démonter les mixeurs de la maison pour voir comment c'était fait, pour voir comment ça fonctionnait. Jamais être capable de les remonter. Ça a commencé comme ça, puis après, à l'école... BEP électronique, parce que pas assez bon pour aller en général. À cette époque-là, c'était ou général ou des écoles techniques.
Une filière technique, même électronique.
Ouais.
Pour faire quel genre de métier, vous vous projetiez dans quoi ?
Rien. Dans rien. C'est pour ça que j'ai rien fait d'ailleurs à l'école. Ouais. Parce que le conseiller d'orientation m'avait dit, il y a de l'avenir dans l'électronique. Moi, ça m'intéressait pas plus que ça. Quoi.
Vous avez fait quoi alors quand il a bien fallu faire quelque chose ?
L'armée.
L'armée ! Vous avez cet âge-là ?
Et ouais, des dernières années à faire le service militaire, mais ouais, l'armée, pour m'en débarrasser, pour pouvoir me dire, faut que je bosse après, donc faut que je me débarrasse de ce truc. Et après l'armée, des petits boulots, rapidement, je suis parti de ma région natale pour aller m'installer dans le sud avec une copine, retrouver des copains là-bas. Et puis, sans diplôme en poche, sans rien, on trouve pas grand-chose comme boulot. Donc je me suis retrouvé à bosser à la vigne, à tailler la vigne, à piocher, etc. Et les métiers... De base. Et puis là, il y a eu des petites rencontres à droite, à gauche, qui font que j'ai accroché au métier, de la vigne au tracteur, de tracteur à la cave, bosser chez les copains à droite, à gauche, à faire du vin, à échanger du travail contre du vin, à faire Et puis,
ce qui fait de vous l'amateur du vin que nous avons découvert en arrivant à l'atelier avec un goûter qui se constituait. Alors on va en parler de ce vin, c'est un peu hors sujet mais pas complètement. C'est voilà ce vin dont vous nous avez parlé en disant oui il a pas beaucoup de structure mais il est intéressant et vous m'avez donné des mots de personnes qui s'y connaissent clairement dans le vin et c'est comme ça que c'est arrivé.
Ben ouais, j'ai passé un moment en fait dans la vigne et dans les caves, c'est là où j'ai rencontré ma femme. À un moment, on s'est posé la question si on s'installait, en fait, si on achetait un hectare de blanc et on se lançait comme ça. Mais en fait, il faisait très très chaud dans le sud, il y avait de moins en moins d'eau. Et les rendements étaient de plus en plus bas. Et j'avais mal au dos, je devais avoir une vingtaine d'années. Et je me suis fait opérer d'une hernie discale, en fait. La vigne est très très basse. Et j'ai pas le physique pour travailler la tête en bas toute la journée.
Parce que vous êtes très très grand.
Ouais, je fais 1m80 et quelques. Et donc opéré d'une hernie discale, et du coup on s'est posé la question de savoir si ça valait vraiment le coup de continuer, de s'installer, d'investir là-dedans, et puis de se lancer quoi. Et puis encore une fois une rencontre, un tailleur de pierre, et on parle de son métier, je me dis bon, ça a l'air cool ce truc. Un lundi matin je vais pas bosser, je vais à la NPE, il y avait des recrutements pour une école de taille de pierre à côté de là où j'étais, par pur hasard, je suis allé voir, j'ai été pris. 15 jours après je commençais mon CAP de tailleur de pierre.
Et ça c'était grâce à la NPE qui vous a financé une formation ?
Ouais, ouais ouais.
Et vous êtes rentré donc assez tard finalement,
ah
en
ouais,
20
carrément,
ans.
Ouais, carrément, ouais. Plus
vous
que
étiez
ça,
avec
plus,
des plus jeunes.
Ouais. J'étais un des plus anciens, ouais.
Et alors ouais. Ça s'est passé comment, la rencontre avec la matière, mais officielle
dans... La taille de pierre.
Ouais.
Et ben, ça a été vraiment chouette parce que mes profs, c'était des vrais passionnés. C'était des gens de métier déjà, c'était des tailleurs de pierre. J'ai fait ça en 2 ans. J'ai passé CAP en candidat libre que j'ai eu haut la main. Alors que... ce que j'avais fait avant à l'école, dans le cursus normal.
C'était la première fois que vous passiez haut la main.
Ah bah oui, carrément, ouais. J'avais faim de bosser, quoi. J'avais faim d'apprendre, d'y aller.
Et d'enfin trouver un métier qui vous ressemblait un petit peu.
Exactement, ouais, ouais. Et puis la première embauche était spectaculaire parce que c'était dans les carrières de Junas, proche de Nîmes. L'entretien d'embauche était d'une autre époque, c'était incroyable. L'entretien s'est fait dans une caravane sur le front de la carrière. Et le mec m'a demandé de dessiner dans la salle d'épure. Donc c'est une salle en fait où le sol est en ciment. C'est juste un abri, un arc plein cintre, je sais pas, de 2 mètres de tombée ou quelque chose comme ça, je me souviens plus. Donc, j'étais un peu surpris, moi.
Vous aviez déjà le CAP.
Ouais.
Mais c'était quoi, à la craie par terre comme ça?
Ah ouais, avec un crayon, règle, tout ce qu'il fallait, dans les règles de l'art, vraiment quoi. Et quand j'ai eu fini, je l'ai appelé, il est venu vérifier, il m'a donné ce qu'on appelle des gabarex, hein. C'est comme des grosses feuilles de papier calque très très épaisses en plastique. Il m'a demandé de faire les gabarits pour la taille. Puis je lui ai rendu, il m'a dit bah, très bien, on se revoit la semaine prochaine à l'atelier. Et le retour à l'atelier, c'était, il m'a retendu mes panneaux en gabarex, j'ai taillé le truc et il allait chez quelqu'un. Quoi.
Ça y est.
Ouais, ça, c'était l'entretien d'embauche, et c'était parti. Donc là, je suis rentré chez les compagnons. Un petit bout de Tour de France à l'Union, c'était sympa.
C'était sympa vraiment, ou vous dites ça comme ça ?
Non, c'était vraiment sympa. Ouais, ouais.
C'était sympa comment ? C'était sympa les gens ? C'était sympa les maîtres ?
C'était sympa le travail qu'on faisait avec les compagnons. C'était sympa ces personnes qui avaient des histoires incroyables à raconter, qui ont tous fait des chantiers absolument incroyables. Les réunions qu'on faisait entre nous, le travail qu'on faisait qui était très dynamisant. Quoi. On avait des devoirs, on faisait du boulot, on apprenait, on faisait plein de choses. Quoi. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Mais... encore une fois, pour accélérer le truc...
Mais pourquoi on accélère ? On a tout le temps.
Parce que c'est une période où, je sais pas, je cherche un peu encore quand même, quoi.
Mais révélatrice. Je le vois juste la façon dont vous en parlez. C'est que là, on sent que ça a commencé à s'allumer, en fait.
Ah ouais, c'est un vrai beau métier. J'ai travaillé sur les plus belles cathédrales de France. On a posé des pierres. Moi, je travaillais plutôt là, sur les chantiers, plutôt que dans les ateliers. J'aimais pas trop les ambiances d'ateliers. C'était un peu compétitif, un peu la course entre chacun.
Ah oui.
Ouais, j'aimais pas trop ça, moi. Et puis, j'aimais bien être sur les chantiers... C'était sympa de découvrir des pierres qui avaient été taillées 200 ans avant nous, les enlever, les remplacer, d'en réparer.
De voir la trace de ceux d'avant.
Ah ben ouais, c'était génial. Hein. C'est génial quand tu déposes une pierre et que le lit de pose ou le lit d'attente, t'as des dessins en crayon qui ont des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Quoi. Des cours de pose.
C'était des dessins techniques ou parfois c'est des dessins comme des messages qui sont laissés pour les suivants ?
Non, des dessins techniques, pratiquement tout le temps.
Mais ça reste des messages en fait.
Ah ouais.
Qu'on voit la trace du gars qui a appris à faire exactement ce que vous faisiez.
Exactement, ouais. Ah ça, c'était génial, ça.
Ouais, c'est émouvant, ouais.
Puis sur des super belles cathédrales, quoi, sur des super beaux bâtiments. La cathédrale de Nevers, la cathédrale de Bourges, la cathédrale de Sens. J'ai passé 2 ans et demi à chaque fois sur chacune, quoi, donc...
Ah oui.
Ouais, ouais. On a le temps de s'imprégner des lieux et découvrir des endroits qui ne sont pas ouverts au public. La cathédrale de Nevers, dans les confins des sous-sols, là, il y a les premières pierres qui ont été posées... avant que ce soit une cathédrale, avant que ce soit une église, c'était un temple païen, il y a toujours la pierre palière de ce temple-là, c'est incroyable comme truc, quoi. Donc ça, c'était génial. Et après, il y avait cette espèce de clash que j'avais toujours, en fait, avec des architectes des monuments historiques, tous ces gens en costume-cravate qui venaient sur les échafaudages, en fait, se faire un petit peu mousser. Et puis le fait qu'on soit sur des chantiers, sur des gros chantiers à 11 millions d'euros, où, en fait, le personnel est payé à 1200 euros par mois.
Ah, puis, bah oui.
C'était très, très dur, ça. J'avais un peu de mal avec tout ça, quoi. Pas forcément le rapport à l'argent, mais...
La valorisation du travail, ouais, de ceux qui font.
Ouais.
Qui n'était pas à la hauteur.
Bah, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est plus important de bien parler de ton travail plutôt que de faire le travail en lui-même. Mm. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai du mal à... Le travail, pour moi, c'est la valeur du truc, quoi. Sans travail, t'as rien à vendre. Mm. Donc, c'était... J'étais pas super fan de cette partie-là.
Au point de quitter ce métier qui vous a tant révélé à vous-même.
Ouais. Ouais, ouais, clairement, c'est ça qui m'a fait partir, d'ailleurs. C'est ce décalage qu'il y avait entre... ce qu'on visait quand on était chez les compagnons, tout le travail extraordinaire qu'on pouvait faire chez eux, les cours de trait, la stéréotomie, l'étude des pierres, l'étude des outils, de tout, tout, tout. Et à côté de ça, du travail un peu bâclé sur les chantiers parce que pas le temps, pas les moyens, pas l'énergie, pas le personnel, pas.
Ouais.
Ça faisait un décalage comme ça. Moi, je me disais, mais en fait, je trouverais jamais, pas ma place, mais je trouverais jamais l'équilibre là-dedans, en fait, quoi.
Entre vos aspirations et la réalité, entre vos valeurs?
Ouais, je sais même pas si on peut parler de valeurs, mais en tout cas des envies, quoi.
Ouais.
T'as envie de bien faire et tu peux pas. Mmh. T'apprends à bien faire, t'apprends à travailler l'excellence, en fait. Moi, j'ai travaillé avec des tailleurs de pierre que j'estime être des très très grands tailleurs de pierre, quoi. Le pays du chemin, si vous m'écoutez, coucou, quoi. Mmh. C'est un Normand qui est incroyable. Une façon de travailler, une façon de vivre, de penser, de tout faire, quoi, qui était absolument incroyable. Mon parrain chez les compagnons, Laurent Podjal, qui était incroyable aussi, à l'exact opposé des deux. Et puis j'ai rencontré plein de gens qui travaillaient vraiment très très bien. Puis à côté de ça, ben 40 heures par semaine, et ben on fait des trucs un peu...
En fait, la façon de fonctionner des chantiers, quelque part, est pas à la hauteur des bonhommes qui sont sur le chantier. C'est ça qu'on dit, ouais, ça leur permet pas d'exprimer pleinement.
Le côté financier prend trop d'importance par rapport à ce que le chantier mériterait, en fait.
Donc vous avez quitté ce monde.
Ouais, en fait, quand le chantier de la cathédrale de Nevers s'est terminé... Ça faisait 2 ans et demi qu'on était là-bas, 2 enfants, ma femme s'occupait des enfants à la maison, elle avait une petite boutique en ligne où elle vendait de la brocante, et on se posait la question de ce qu'on allait faire, parce qu'en fait, il n'y avait plus de chantier qui s'ouvrait, et la seule solution, c'était aller faire du haussmannien à Paris, quoi. Mmh. Ça, moi, ça me faisait pas franchement rêver. Donc, on s'est posé la question de ce qu'on allait faire. Moi, je faisais déjà des petits couteaux à droite, à gauche.
Alors, comment ça a commencé, cette histoire de couteau? Le métal, déjà. Comment le métal est arrivé dans cette histoire?
Eh ben, j'avais besoin d'outils de tailleur de pierre.
Ah oui?
Ouais. Il n'y a plus de fabricants d'outils de tailleur de pierre. Il y a Oryu, une boîte française. Après, il y a 1 ou 2 boîtes italiennes. Et puis après, du matos chinois. Mais c'est très standardisé. On trouve un ciseau de 20, un ciseau de 30, une gouge de 20, une gouge de 30. Mais si on veut un truc intermédiaire ou un truc un peu bâtard, un peu long, un peu court, un peu trapu, ben y a pas, on est obligé de se bricoler un truc. Donc moi je me suis bêtement mis à forger comme je pouvais, forjouiller en fait, hein, pour faire mes outils. Puis petit à petit j'y ai pris goût. Comme j'étais sur les chantiers, je rencontrais quand même plein de monde. Donc des gens qui travaillaient le bois, des gens qui travaillaient la pierre, qui la sculptaient. Les sculptrices là, qui faisaient un travail incroyable. Très fin, c'était quand même de la pierre, mais c'était très très fin. Et elle utilisait des ciseaux à bois qu'elle modifiait ou tourait dans le bas de l'échafaudage là, pour l'adapter au travail de la pierre. Et moi je me disais, c'est pas possible, pourquoi personne fait des outils pour ces gens-là, quoi. Donc j'en ai fait quelques-uns, mais je pouvais pas passer mon temps à faire des outils pour les autres.
Parce que quand même, vous deviez être assez bon. Donc les gens ont repéré que vous faisiez des bons outils et on vous demandait des outils.
Ben, le truc, c'est ça en fait, c'est que les outils pour la pierre, c'est on prend un morceau de ferraille, on le transforme en outil. Et le premier jour où tu le mets sur le chantier, ben, il prend un coup de massette d'1,5 kg dans la tronche et il tape contre une pierre. Donc il faut que ce soit bon, sinon ça pète, sinon c'est mou, sinon ça marche pas, quoi. Donc ben fallait que je potasse pour que ça fonctionne. C'est relativement simple à faire, mine de rien.
Potasser concrètement, ça voulait dire essayer,
ouais.
rater.
Ouais, puis comprendre surtout pourquoi est-ce que ça marchait, pourquoi est-ce qu'il fallait tremper, est-ce que ça voulait dire la trempe, ce que ça voulait dire un recuit, un revenu, tous ces mots du métal là qui font que on passe d'un morceau d'acier mou, pas trempé, rien, à un outil au final, quelque chose qui fonctionne.
Et ça, c'est complètement empiriquement, ou est-ce que vous avez, je sais pas, ouvert des livres, ouvert YouTube? Comment vous avez cherché la connaissance?
Alors, au tout début, où j'ai commencé à forjouiller, à faire quelques outils, à faire quelques couteaux, des trucs comme ça, il n'y avait pas vraiment Internet. En tout cas, c'était pas aussi développé que maintenant. C'était quasiment avant que j'attaque la taille de pierre, ça, que j'avais commencé à travailler le métal un petit peu.
Ouais.
en cherchant des informations sur les outils de sculpteurs, j'utilisais des ciseaux à bois.
Ouais.
Et je suis tombé en fait par hasard sur internet sur un catalogue d'outillage allemand. C'était un revendeur de matériel japonais. Le mec, c'était un importateur. Il importait des ciseaux à bois, des rabots à bois japonais, des scies, plein de matos comme ça. Et en fait, j'ai halluciné en voyant ce catalogue. C'était une époque où j'avais vraiment pas un rond, mais vraiment pas un rond. Hein. On vivait dans une cabane au fond d'un terrain avec ma femme, on n'avait pas l'eau, pas l'électricité.
Oh là là.
Et donc, je tombe sur ce catalogue et moi, je vois des ciseaux à bois qui valent 500 balles. Des rabots à bois qui valent 1000 euros. Et ça, 1000 balles, quoi. Tu te dis, mais attends, c'est une planche?
Mais oui.
Un trou dedans et deux bouts de ferraille de planter dedans, quoi. Pourquoi est-ce que ça, ça vaut 1000 balles? Et là, je me suis dit, il y a un truc que je comprends pas. Alors, je voyais une esthétique, je voyais des choses, il y a des proportions qui font que c'est beau, c'est harmonieux, c'est les ciseaux à bois, pareil, t'as des trucs hors de prix. Je me disais, putain, mais ça vaut 8 euros à Brico Dépôt, pourquoi est-ce que tu mets 500 balles dans un ciseau comme ça? C'est quoi le truc? Qu'est-ce que je comprends pas? Je voyais que c'était beau, je voyais que c'était bien gaulé, que les proportions étaient belles. J'ai dit, faut que je creuse. Et c'est comme ça, en posant ces questions-là sur un forum de forge, qu'on m'a dit contacte Eric Plazen. Parce que lui, bah, ce type de construction qu'on fait, c'est de la construction purement japonaise, trois couches. On appelle ça un sanmai en japonais, c'est littéralement trois épaisseurs, trois couches. Tout le monde me dit, faut que tu parles à Eric, il va t'expliquer ce genre de truc. Et c'est comme ça que je l'ai appelé, c'est pour ça que je l'ai appelé, en lui disant, je comprends pas pourquoi est-ce que ces trucs-là valent 500 balles ou 1000 balles, alors que ça vaut 8 euros à côté de chez nous, et qui probablement ça fait la même chose. Et là, il t'explique que non, que y a une couche d'acier qui fait juste ça de long, parce que le ciseau, il a pas besoin d'être long comme ça, tout en acier. Tout le reste peut être en fer, parce que ça coupera jamais, on fera jamais couper le manche. Donc ça n'a pas besoin d'être en acier, ça peut être que en fer. Et le bout peut être que en acier, parce que lui, il faut que ça coupe. Donc on met de l'acier juste là où il y en a besoin. Le fer est juste là en support pour l'acier, pour soutenir l'acier, pour faire son travail. Et c'est de là que j'ai appris toute cette philosophie de, d'économie de matière, de bon usage de la matière.
Ouais, de mettre ce qui est nécessaire à l'endroit où c'est nécessaire.
Exactement.
Et pas plus.
Ouais. C'est pour ça que j'ai appelé Eric la première fois. Je le connaissais pas, il me connaissait pas, il avait jamais entendu parler de moi, j'avais jamais entendu parler de lui avant ça. On est resté 2 heures au téléphone et quand j'ai raccroché, j'ai dit bah oui, c'est ça que je veux faire. J'ai envie de faire Eric Plazen comme métier, quoi. C'était plié.
Ah là là, ça s'appelle un ange gardien, ça.
Ouais, clairement. clairement. Ouais. C'était une chouette rencontre parce que c'était un vieil anarchiste qui a tout fait dans sa vie, qui était brocanteur, qui a tenu un bistrot à Toulouse et qui a découvert la métallurgie par un vieux bouquin qu'il a trouvé aux puces. Et il l'a lu, il s'y est intéressé, il a monté une forge et puis finalement, ça a pris le pas sur tout le reste. Et puis il est devenu coutelier, il est devenu pour moi un des meilleurs couteliers français, un des plus... Il est décédé il y a quelques années. Mais...
C'est exactement comme ça que je vous décrirais si je parlais de vous. Le mec, il a tout fait avant dans sa vie, et puis il est devenu coutelier, et aujourd'hui, ses couteaux s'arrachent dans le monde entier. Et je pense que vous êtes devenu Eric Plazen.
Ah, je ne pense pas.
En fait, vous êtes devenu Brian Rakin.
Ouais. Je ne pense pas que je sois devenu Eric Plazen, mais en gros, l'histoire, elle est là. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment à travailler métal, quoi.
Avec lui. Parce que vous soyez tombé... amoureux de métier de lui, d'accord, mais que lui ait pris le temps et eu l'envie de vous accueillir, vous. Parce qu'il devait être sollicité, quand même, cet homme.
À cette époque-là, pas trop. C'était un mec un peu coupé des réseaux internet et tout ça. Là. C'était une époque où sa carte de visite sur les salons, c'était un morceau de bois avec de la pyrogravure dessus et son numéro de téléphone de gravé dessus. Donc
en fait, il était content que quelqu'un s'intéresse à son savoir-faire et le reconnaisse et l'absorbe pour le faire perdurer.
Je pense qu'il a transmis à plein de gens. Mais il a pris une direction dans son travail, en fait, qui n'est pas la direction la plus facile. Et du coup, quand on commence, si on essaie de coller à ses pas, on se heurte à vraiment beaucoup, beaucoup d'obstacles. Il faut avoir envie d'aller dans cette direction-là pour continuer à la suivre.
Et cette direction-là, comment la définir? C'est quoi? C'est des couteaux comment?
C'est uniquement lié à l'acier, en fait, au type d'acier. C'est des aciers qui trempent à l'eau, qui n'ont pas d'éléments d'alliage à l'intérieur.
Et c'est ce que vous faites, vous, aujourd'hui? Et ça, c'est très rare dans le monde des couteaux?
Eh ben, c'est des aciers, en fait, qui n'ont rien pour t'aider. Ils vont rien faire pour t'aider à faire quelque chose de facile. C'est des aciers où il faut vraiment se battre, qui donnent le full potentiel de ce qu'ils sont capables de donner, quoi.
Et pourquoi on y va quand même? Pourquoi vous les choisissez, ces aciers-là, si difficiles? Qu'est-ce qu'ils donnent à la fin? Quelles sont les propriétés qui font qu'ils soient si désirables?
Je pense pas que ce soit la finalité qui nous envoie sur ces aciers-là. Je pense que c'est au contraire tout le cheminement qu'il y a pour arriver à un résultat Si je fais des couteaux de cuisine, c'est parce que cet acier-là se prête très très bien au couteau de cuisine.
D'accord, il y a quand même une finalité d'usage.
Ouais, ouais, clairement. Ça va pas très bien, par exemple, pour faire une hache. D'accord. Ça irait pas très bien pour faire un petit couteau de poche ou un couteau à 8, par exemple. Ça marcherait pas. Ça serait très fragile. C'est des aciers qui sont très très durs, qui sont très cassants, qui fonctionnent pour un couteau de cuisine, mais pas pour un couteau qui va tailler du bois, par exemple, d'accord, ou qui va servir à un chasseur. Ça marcherait pas bien, quoi.
Alors donc, cette rencontre avec le métier de coutelier, à quel moment vous vous dites « Ok, c'est ça ma voie, c'est ça ma route ?»
Eh bien, juste avant que le chantier de la cathédrale de Nevers se termine, ouais, je passais 40 heures sur le chantier par semaine, et puis je devais passer 20 heures à l'atelier, à
ça
la maison.
Ça fait beaucoup d'heures, ça.
Ouais, mais c'était bien. C'était bien. Donc, ouais, beaucoup de couteaux, beaucoup de forges, beaucoup d'essais, vraiment beaucoup, beaucoup d'essais pour arriver à faire quelque chose qui... Alors, c'était jamais très beau. Je mettais beaucoup de cœur pour que ce soit très efficace.
D'accord.
Ouais, voilà. Alors à l'époque, l'esthétique m'importait peu, la géométrie m'importait beaucoup, mais c'était surtout qu'il fallait que ce soit efficace.
Comment s'est passée la transition de la pierre au métal ? Comment vous êtes passé de l'un à l'autre et...
Je pense pas qu'il y ait vraiment de lien, en fait, où je l'ai jamais vraiment ressenti. La pierre, c'est gros, c'est lourd, c'est poussiéreux, c'est très bruyant, c'est toujours en haut d'un échafaudage, c'est... je sais pas, l'atelier, c'est au contraire plutôt calme comme métier, c'est plutôt... Le seul truc qu'il y a, on se bat un peu avec. Je pense que l'un m'a emmené à l'autre, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de... En fait, sur la pierre, on enlève de la matière, tout le temps sur la pierre. On prend part d'un cube, un bloc capable, et à partir de là, on enlève tout ce qu'on n'a pas besoin pour retrouver notre bloc fini. En coutellerie, moi je rajoute déjà, je pars d'un morceau d'acier sur lequel je mets deux morceaux de fer, donc déjà on a déjà une matière complètement bâtarde qui n'a pas de sens. Après je la pousse, je la tire comme de la pâte à modeler, comme de la pâte à pizza, on tire dessus, on l'allonge, vraiment d'un morceau qui fait 5-7 cm de long, on arrive à une lame de couteau qui va faire 25 cm de long.
Oui.
Donc on arrive vraiment à tirer dessus, ce qu'on fait jamais avec la pierre, quoi. C'est pas possible.
Non.
La pierre on fait que enlever, on peut pas faire autre chose. Et après sur le métal,
oui, c'est radicalement différent.
Ouais, on en enlève après sur le métal, hein. On en coupe aussi, on en meule.
C'est une autre grammaire, c'est notre rapport à la matière, pays.
Ah oui, complètement. C'est dur et froid, mais c'est tout.
Ouais.
Rien à voir.
Vous avez la double nationalité.
C'est ça.
Mais il y a toujours aujourd'hui où vous avez un travail beaucoup plus abouti, mais il reste dans votre esthétique et dans votre patte un côté très brut,
ouais,
presque brutaliste.
Ouais. C'est super simple maintenant d'utiliser des matériaux incroyables. On peut utiliser des morceaux de navette spatiale, on peut utiliser des bois qui viennent de l'autre côté de la planète, on peut utiliser des aciers très très techniques, vraiment très très techniques maintenant. J'ai pas envie que les matériaux aient plus de valeur que mon travail.
Je comprends.
Tu vois, je sais pas vraiment encore l'expliquer ce truc-là, mais moi j'aime bien quand on oublie qu'on a un de mes couteaux en fait. Mm. J'ai pas envie que mon couteau soit dans une petite étagère avec des spots dessus et puis une petite étiquette en tout qui explique ce que c'est que ce truc, etc. quoi. Moi je crois que j'ai gagné en fait quand un chef m'envoie une photo de son plat qu'il a cuisiné et qu'en arrière-plan je vois traîner un de mes couteaux sur son plan de travail. Là pour moi j'ai gagné quoi, je suis arrivé à faire ce que je voulais. Le couteau est pas mis en avant parce que c'est Instagrammable ou je sais pas quoi.
Et pourtant Instagram est quand même central dans ce dispositif. Alors que c'est tellement pas vous.
Bah ouais, mais c'est un outil incroyable aussi quoi. Déjà, c'est gratuit.
Ouais, non, mais c'est vrai, il faut le
ouais,
dire.
C'est un outil de com' gratuit, il n'y en a pas beaucoup quand même comme ça. Alors, ils peuvent si gratuit que ça, parce qu'on le paye avec de la pub ou je sais pas quoi, mais...
Et puis avec du temps passé à produire les contenus.
Ouais, ouais, je passe pas beaucoup de temps non plus. Mais, mais c'est un outil de communication pour moi. Ouais. C'est-à-dire qu'on touche, là, je sais pas, 11 000 personnes sur mon compte. J'ai jamais rien fait pour les avoir, ces 11 000 personnes, quoi. Si vous remontez au tout début de mon Instagram, je pense qu'il y a des photos de cailloux et de mes chaussures poussiéreuses, c'est à peu près tout ce qu'il devait y avoir dessus, quoi. Maintenant, je m'en sers effectivement comme d'un outil de com. Mmh. Les gens me parlent dessus, j'échange avec ces gens, je rencontre des gens, je découvre des gens me découvrent, c'est quand même...
Bah, c'est comme ça qu'on s'est découvert tous les deux, ça
ouais,
compte.
Exactement, ouais. Exactement. Donc ouais, Instagram, ça compte, ouais.
Et donc, vous avez installé votre activité de coutelier ?
Ben en fait, quand ce chantier s'est terminé, ouais, là, eh bien, on s'est posé la question si on allait à Paris ou pas. Et pour moi, c'était plutôt hors de question d'aller à Paris avec deux enfants et puis finir dans un petit truc, alors qu'on habitait dans la Nièvre, aux portes du Morvan, dans une grande baraque avec un grand terrain, un jardin, etc. etc. Et j'ai dit, ben, quitte ou double, on essaye, quoi. J'ai fait une rupture conventionnée, là, mon contrat. C'est la première fois qu'ils en ont une. C'était un grand groupe, hein, pourtant, mais c'est la première fois qu'ils laissaient partir quelqu'un. Et on a débarqué ici.
Donc ici, nous sommes à La Lisole.
Ouais, c'est ça.
En Auvergne.
Dans l'Allier.
Dans l'Allier, à 700 mètres d'altitude.
Ouais, C'était pas le meilleur choix, ça, d'ailleurs. C'était pas forcément le meilleur choix. Mais la maison est chouette, il n'y a pas beaucoup de voisins, et je peux forger tranquillement, je peux faire du bruit sans déranger trop de monde.
Parce que ça fait du boucan, cette affaire.
Ah ouais, un peu quand même. Ouais, ouais. Et donc, on s'est installé là, et on s'est dit, bon, on va se donner un an ou deux, on verra, on va essayer des trucs, quoi. Puis j'ai jamais arrêté.
Bah oui, parce que ça a pris.
Ouais.
À tel point qu'aujourd'hui, pour avoir un couteau de vous, il faut vraiment s'accrocher.
Alors, parce que je l'ai voulu aussi, hein, que ce soit comme ça, que... Je prends pas de commandes. J'ai arrêté d'en prendre il y a 5-6 ans, je pense. J'ai arrêté de prendre des commandes parce que c'est... pour moi, c'est un frein à tout, quoi, de prendre les commandes. C'est, on fait des outils très précis, on fait des choses très précises, et les gens sont très exigeants sur ce qu'ils veulent. Des idées très précises sur ce qu'ils veulent aussi. Et du coup, ben, on est là à suivre des lignes, en fait, et à essayer de coller au maximum à ce que le client veut, avec des fois des... Ah ben non, mais je le voulais pas vraiment comme ça, et puis...
Alors que vous avez votre vision technique, en réalité, que vous vouliez proposer au marché.
Ouais, exactement. Les aciers que j'utilise, personne ne les utilise, ou presque personne, parce qu'ils sont chiants. Les bois que j'utilise, c'est pas des bois précieux. La finition que je fais, c'est jamais des finitions précieuses. C'est des choix que je fais parce que c'est comme ça que ça m'intéresse, parce qu'il y a toute une philosophie derrière qui est importée du Japon, quoi. L'outil qui est censé servir, l'acier qui est là parce qu'il a besoin d'être là et pas ailleurs, il y en a pas là où il y en a pas besoin. Le manche, eh ben, si on échappe le couteau par terre, qu'on casse le manche ou qu'on le brûle sur le coin de la gazinière ou un truc comme ça, ben, on l'enlève, on en met un autre et puis ça coûte pas 200 euros, quoi. Alors que c'est le prix que ça peut coûter avec certains bois maintenant ou certains matériaux, quoi. Donc, j'ai pas envie de ce genre de truc. J'ai vraiment envie de faire des outils pour les gens. Et...
Vous êtes arrivé à l'outil en fer par la taille de pierre. Est-ce que vous êtes arrivé au couteau par la gastronomie?
Eh ben, au couteau de cuisine, ouais. Clairement.
Vous êtes un bon cuisinier ?
Ah non, mais je tiens bien à table. Ma femme cuisine très très bien. J'aime bien manger, j'aime bien très bien manger. J'aime les palaces, j'aime les cantines.
Ouais.
Ouais. J'aime le vin. C'était obligé en fait, que mes couteaux deviennent des couteaux de cuisine à un moment ou à un autre. On est obligé de commencer par des petites lames. Parce qu'on peut pas au départ forger une lame qui fait 40 cm de long. C'est compliqué techniquement à faire, à forger. Forger droit un couteau de cuisine de 40 cm de long, ça fait 2 mm d'épaisseur. Quand c'est chaud, c'est mou comme du papier, quoi. Mmh. Si on le tient par la pince de forge, si on est à 800 degrés sur toute la longueur, tu le tiens en bout comme ça, et le truc, il finit par son propre poids, et il se plie, quoi. Donc c'est très compliqué à forger. Le traitement thermique est très très compliqué là-dessus aussi. Au-delà de 30 cm, c'est quand même très long. C'est très compliqué à faire. Donc il faut commencer petit. Donc j'ai commencé par des petites lames, des petits couteaux d'office. Des petits couteaux de poche qui servent à éplucher une pomme, à couper un steak, à couper un bout de papier, un bout de ficelle. Et puis petit à petit, ça s'est agrandi, jusqu'à ce que j'arrive à faire des couteaux de cuisine aussi facilement, entre guillemets, que des petits couteaux de 8 cm de long. Mmh. Voilà. Mais clairement, j'y suis venu parce que ça me paraissait normal de faire des couteaux de cuisine. J'aime beaucoup la culture japonaise, vraiment. Et au Japon, c'est soit on forge des outils, soit on forge des couteaux de cuisine, soit on forge des sabres. En gros, dans l'imaginaire des gens, c'est plus ou moins ça. J'aime pas le côté martial de toutes ces armes, des katanas, même si techniquement c'est fantastique. C'est vraiment très très beau à voir, c'est des pièces qui sont superbes. Mais l'idée de forger une arme me plaisait pas plus que ça, plutôt que forger un truc à découper du saucisson. Ça me plaisait un peu plus. Ouais. Et c'est comme ça que je suis arrivé à faire des couteaux de cuisine. Ouais.
Qui sont des outils.
Ouais, complètement.
La philosophie japonaise, c'est quoi? Elle a un nom?
Ouais, certainement qu'il y a un nom. Oui.
C'est revenir à l'usage de l'objet.
Ouais, exactement. Ouais. C'est utiliser uniquement ce qu'on a besoin d'utiliser et puis pas utiliser le reste, en fait. Mmh. On n'a pas besoin d'avoir des trucs avec des étoiles qui brillent ou qui font de la lumière ou qui s'affûtent tout seul quand on sort de l'étui ou qui se nettoient tout seul ou qui... Enfin, je sais pas, tu vois. On peut inventer plein de choses comme ça, mais... Revenir à l'usage de l'outil, quoi. Tout simplement, un couteau qui est fait pour cuisiner.
Alors, est-ce que pour les non-initiés dont je fais partie, vous pouvez nous raconter un peu votre métier? C'est quoi un métier de coutelier? C'est quoi les gestes que vous faites? Et vous le savez, hein, moi je comprends les mots et plus je suis contente.
Alors, c'est super simple et c'est très très répétitif comme métier. C'est-à-dire que moi, tous les matins, je rentre à l'atelier, je sais pas ce que je vais faire. La première chose que je fais, c'est j'allume la forge, je fais tourner le marteau pilon. Puis après, il y a une idée qui germe. Alors, petit couteau, grand couteau, couteau à légumes, plutôt couteau à viande, couteau à poulet peut-être. Et dans tout ça, je fais mon choix. Je me dirige vers l'un ou vers l'autre. Après ça, je calibre les morceaux d'acier que j'ai besoin. Je fais des montages en trois couches, en trois épaisseurs. Donc il y a une couche d'acier très dur au centre du couteau qui formera le fil du couteau. C'est de l'acier qui prendra la trempe. Et de chaque côté, je soude au feu un acier doux ou du fer qui lui prendra pas la trempe, mais qui permet en fait de garder une certaine souplesse dans la lame et qui permet de garder une dureté encore plus élevée au centre sans craindre que le couteau se casse. L'usage premier, il est là. Le deuxième usage qui vient du Japon, c'est ce truc d'économie, en fait, d'économie de l'acier. Par exemple, sur une lame de 30 cm de long, qui fait 4 mm d'épaisseur, on va dire, ce qui est très épais, ce qui n'a pas de sens, mais pour imaginer, on n'a pas besoin d'avoir une 4 mm d'acier d'épaisseur sur 30 cm de long. On a besoin de 30 cm de long parce que c'est la longueur du fil, mais par contre, si on peut avoir un tiers d'acier et deux tiers de fer, on le fait, comme ça on économise deux tiers d'acier.
Parce que l'acier est plus précieux.
Et ouais. Et au Japon, il était plus rare à une époque.
D'accord.
Ouais. C'est comme ça que c'est arrivé, en fait, ces constructions multicouches, pour économiser l'acier. Après, je soude au feu, j'étire, et ça va très très vite. Hein. Une lame de couteau, entre le moment où la forge est à température et le moment où la lame est forgée, mais brute de forge. Hein. Les traitements thermiques sont pas faits, rien n'est fait, mais la forme est faite, plus ou moins, il y a 30 minutes qui se passent. C'est explosif, c'est propre à cet acier-là, quoi. C'est qu'une fois que ça a commencé, faut exactement savoir où on va, parce qu'on peut pas s'écarter, on peut pas attendre. Si le facteur rentre ou si le voisin rentre pour faire affûter sa lame de tondeuse, c'est pas que le couteau est mort, mais on a perdu le rythme, on a perdu le truc. On a perdu un cycle de chauffe aussi. On crée de l'oxydation, on crée de la calamine, on crée tout ça. Et on n'a pas besoin de tout ça. Donc il faut, c'est explosif comme métier. Quand on commence, j'ai la tête dedans, et boum, pendant 30 minutes, ça s'arrête pas. Après, il y a des cycles de traitement thermique qui viennent après, des cycles de montée en température, de descente en température lente, etc., etc.
Et donc, on fait un couteau par jour ?
Ça dépend de la taille.
Ça dépend de la taille.
Et ouais. Ça dépend de la taille et ça dépend des matériaux. Il y a des matériaux, par exemple, je vais avoir des aciers qui sont calibrés. Donc, je vais avoir des pièces, on va prendre un exemple, un morceau d'acier, par exemple, qui fait 50 mm de long, 30 mm de large et 4 mm d'épais. Et de chaque côté, je vais souder au feu, donc, son équivalent en fer. Mais en fer, on peut trouver ces formats-là, 30 par 40 par 6 d'épais, par exemple. On trouve ces formats-là. Donc ça, c'est facile, ça fait des étapes en moins à faire. Mais de temps en temps, j'utilise d'autres matériaux, du vieux fer. J'en ai pas dans cet atelier pour te montrer là, je te le montrerai dans l'autre. C'est des gros morceaux, ça peut être des bandages de roues de charrette, ça peut être des tirants de maisons, de vieilles maisons. On appelle ça du vieux fer, c'est la même matière que la tour Eiffel.
Ah d'accord.
C'est le fer pudelé, on appelle ça. C'est des résidus de bas fourneaux, en fait, qui sont recyclés, qui sont bons à rien.
Et qui arrivent chez vous à l'atelier pour...
Ouais. 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 En fait, ils sont vachement intéressants pour mon métier parce qu'ils se soudent à des températures plus basses. En gros, la soudure au feu, là, sur des aciers comme ça, c'est en gros 1000-1050 degrés. À 1050 degrés, si on sort ça du feu, qu'on tape dessus sur l'enclume, au marteau, on se retrouve très rapidement avec un seul morceau, un bloc homogène. Et si on utilise du vieux fer, c'est plutôt aux alentours de 980 degrés, alors des fois 950. C'est un peu limite 950, mais ça peut passer. Et donc ça, c'est bon pour l'acier qui est au centre. Moins c'est chaud, mieux c'est. Mais moins c'est chaud, plus on risque de rater sa soudure. Alors c'est toujours un peu sur le fil comme ça.
Et comment vous le trouvez ce vieux fer dans les brocantes,
dans les champs, chez les paysans, dans les cours des fermes. Puis les gens le savent de temps en temps.
Donc ils vous apportent du vieux fer.
Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui m'a déposé deux roues de charrette devant la maison il n'y a pas très très longtemps. Alors tous ne sont pas bons à utiliser. Il faut faire des essais, il faut faire des tests. Et puis l'argent qu'on gagne, il n'y a pas à l'acheter. On le perd en faisant des essais parce qu'il faut faire des essais. Bien sûr. Après, il faut le calibrer. Parce que justement, c'est pas des morceaux qui font pile 30 mm de large par 50 de long par 7 d'épais. C'est plutôt des trucs qui font 80 mm de large. Puis le bandage de roue de charrette fait bien souvent 2,50 m de long, puis bien souvent 10, 15, 20 mm d'épais. Donc ça, il faut le retravailler au marteau-pilon. Mm. Voilà.
Mais en fait, c'est ça que vous aimez.
Ouais. Exactement. Exactement. Tous les matins, je vais travailler avec le sourire pour faire ça, quoi. Si j'ai pas envie d'aller travailler, je vais pas travailler.
Et alors justement, l'argent, économiquement, comment ça marche ? Vous arrivez là où vous voulez ? Vous êtes satisfait ?
Alors, ça a mis longtemps. Il y a eu des années où on aimait bien les pâtes à la maison. On n'a jamais eu à se plaindre. Franchement, je touche du bois. On a toujours eu de la chance. On a toujours... Alors, les copains couteliers disent que c'est pas du tout de la chance, mais quand même un peu, quoi. C'est, Puis j'ai toujours tenu, en fait, à donc, ce côté outil et ce côté... abordable. Alors, abordable, c'est compliqué. Parce qu'un couteau à Ikea, c'est abordable.
Ouais.
C'est pas très cher. On arrive à trouver des couteaux japonais qui sont pas très chers. Qui valent pas mieux qu'un couteau Ikea, d'ailleurs. C'est pas parce qu'ils sont japonais qu'ils sont mieux. Mais c'est très compliqué de trouver le juste milieu.
Parce que avec vous, vos couteaux, on parle de quoi comme prix ?
2 euros le millimètre de fil, à peu près, quoi.
2 euros le millimètre.
Ouais. Une lame de 20 cm, ça coûte 400 euros, en gros, quoi. Ça, c'est une finition de base, une finition satinée, comme on a vu au bout de la table, là, ouais. tout à l'heure. Après, si tu rajoutes tout le travail à la pierre qui se fait là, là, les prix montent un petit peu plus, quoi. Mais j'ai toujours essayé de tenir des prix, assez corrects comparés aux autres, quoi.
C'est-à-dire que... Sachant qu'un couteau, Brian Raquin, on le garde toute sa vie. On le donne à son
théorie,
fils.
Ouais, en théorie, ouais. Si tu le casses pas, si, ouais.
Et quand bien même si je le casse, je le renvoie à l'atelier.
Ouais.
Donc ah oui, c'est éternel ce couteau.
Oui, oui. Bah jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de matière, quoi.
Ouais.
Ouais.
Ouais, mais ça c'est une belle vie, c'est une belle mort. Pour
oui, c'est
couteau.
Ça, ouais, c'est une belle mort.
Ça va.
Ouais, ouais. Ouais. Donc ouais, mais financièrement, oui, là, je suis super content, quoi. Enfin, moi, c'est, je fais le métier que j'aime, je gagne suffisamment d'argent pour vivre et pas me plaindre, pour boire du bon vin une fois de temps en temps.
Merci pour le bon vin.
Voilà. On pourrait faire plus, hein.
Mais non, on pourrait pas. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que vous pourriez faire plus puisque vous faites un couteau par jour, vous avez un carnet de commandes qui est rempli sur autant que vous voudriez. Si c'était 2 ans, ce serait 2 ans. Il y a une capacité de production qui est liée à votre capacité disponible à ce travail-là.
Oui. Là, en termes de production, je peux pas plus. Je me garde du temps pour moi aussi, pour d'autres activités.
Vivre.
Oui, ouais, tout simplement. Je garde mes week-ends aussi un peu.
Ouais.
Alors, je dis pas que le week-end, je travaille jamais, hein, mais je forge pas le week-end. Ça m'arrive de faire un polissage, un affûtage, une réparation, les colis en principe, pour qu'ils puissent partir le lundi matin, ce genre de choses.
Ouais, quand même. Je bosse pas le week-end, mais j'y passe bien 3-4 heures, quoi.
Ouais. Ouais. Et ça, c'était un truc pour moi qui était très très difficile, en fait, c'était d'arrêter de culpabiliser, de pas travailler, de pas être productif.
Même le week-end.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. La semaine, c'était impensable. C'était impensable.
Et aujourd'hui, ça vous arrive de rien faire un lundi matin ?
Ouais. Ouais. Il y a des fois, j'ai pas envie, je vais jouer au golf.
Oh ! Alors, je vous imagine partout, sauf sur un terrain de golf.
Ben ouais. Et ben pourtant, c'est vraiment médicament, le golf.
Ah
c'est
ouais?
Ouais, c'est fantastique parce que tu peux pas y aller en dilettante, quoi. Si tu veux jouer au golf, t'es obligé de penser que au golf. Et donc, du coup, tu penses absolument plus à tes clients, plus à ton affûtage, plus à tes 4 couteaux que t'as ratés cette semaine. Tu penses plus à tous ces trucs-là, sinon tu peux pas. Donc ça, c'est fantastique comme truc.
Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas parlé des couteaux qu'on rate, mais il y en a encore des couteaux qu'on rate,
ouais, plein.
À votre niveau.
Ah ouais, plein, plein, ouais. Il y en a un encore au bout de la table. Hein.
Et qu'est-ce qui fait qu'il est raté ?
Défaut de soudure. C'est ce fameux truc que je te disais tout à l'heure, là, où on est sur le fil toujours, on est à 980 degrés, on est limite à souder, on essaye de ne pas aller à 1100 parce qu'on sait que... T'aimes bien les gros mots, on va avoir de l'austénite résiduelle qui va être difficile à déstabiliser.
Oh là là, austénite résiduelle, merci.
C'est des composantes de l'acier, enfin c'est... En fait, on est toujours en train de lutter justement contre... Alors pour te raconter, en fait, le truc, c'est quand tu reçois de l'acierie, il est dans son état optimal. C'est-à-dire que tu peux pas faire mieux. Il est parfaitement recuit, le grain est parfaitement fin, la structure est... Enfin, on peut pas faire mieux. Et le fait de le forger, juste le foutre dans le feu, ben tu fais que le dénaturer. Et le boulot du coutelier, c'est de transformer ce morceau d'acier en couteau, en évitant de le dénaturer au maximum. Et après, par tout un tas de combines, de traitements thermiques et tout ça, d'essayer de lui redonner une structure que tu veux pour l'outil que tu as besoin de faire.
Ok.
Voilà. Donc ça, c'est le travail du coutelier. Pour moi, c'est le fond du métier. Et donc, essayer de souder le plus bas possible, ça fait partie de ça. Mais on est un peu en dessous. Des fois, l'enclume est un peu plus froide qu'on pensait, et puis bah ça pompe un peu plus de chaleur, décompose le petit morceau de... On appelle ça un sandwich. Il y a 3 couches, décompose le sandwich dessus pour être soudé. On a vraiment 1 ou 2 secondes pour souder. Et le fait de le poser sur une enclume un peu froide, ça pompe la chaleur de ta pièce. Et du coup, tu passes juste en dessous la limite de la température de soudure. Et tu peux pas le voir vraiment, mais tu te retrouves avec des petits endroits où la soudure...
Et vous en rendez compte à quel moment ?
À la fin.
À la fin, évidemment.
Donc là, je vais au golf.
C'est pour ça.
Ouais. Exactement. Ouais. Je peux pas généraliser et dire la coutellerie, c'est comme ça, en tout cas. Mais mes couteaux, je les fais comme ça. C'est-à-dire que je fais mon sandwich, je le soude, je forge mon couteau, je fais mes traitements thermiques, je vais manger, parce que là, en principe, il est à peu près midi ou 1 heure. Et l'après-midi, quand je reviens, ils sont prêts à être meulés. Le traitement thermique se fait pendant que je mange. Et donc l'après-midi, je peux meuler le couteau, c'est-à-dire sortir les moutures, en fait. Sortir la partie amincie qui va du dos jusqu'au fil du couteau. Et c'est à ce moment-là qu'on voit s'il y a des imperfections dans la soudure. Le but du jeu, c'est de garder cet acier parfaitement centré dans l'épaisseur de la lame. Suffisamment découvert, mais pas trop. Si c'est trop découvert, c'est pas beau. Si c'est pas assez découvert, c'est pas beau. Et techniquement, c'est moyen. À l'affûtage, on se fait chier. Il faut trouver le juste milieu. Puis après, qu'il n'y ait pas de défaut de soudure entre ces 3 aciers-là, entre ces 3 couches-là.
Donc, on comprend dans votre métier l'action, le côté explosif, mais qui est sur une période finalement assez courte. Et ensuite, c'est un temps plus méditatif, plus intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pendant ce temps-là ?
Bah, j'écoute le podcast. non, réellement, beaucoup de musique. Il y a tout le temps de la musique à l'atelier. C'est ici que tout se passe, en fait. Hein. La machine derrière moi, ça sert à faire les moutures, donc la partie qui va ramener le fil. Ça, on enlève de la matière, donc ça fait du bruit, casque anti-bruit, l'aspiration pour aspirer les poussières et tout ça. Ça dure pas très longtemps non plus. Et après, bah oui, effectivement, affûtage, polissage, montage, tout ça, c'est des trucs où.
Calme.
Très calme, où il n'y a pas de bruit, où il y a de la musique, il y a du podcast, il y a. On a le temps de penser à rien, on a le temps de penser au prochain, on a le temps de penser à pourquoi est-ce que ça marche pas avec cette pierre alors qu'hier ça marchait. C'est un chouette métier en vrai. Moi j'aime vraiment beaucoup ça. C'est cool parce que moi j'aime être seul. Tu fais des trucs, ça marche pas, t'essayes. Ça coûte pas une fortune à essayer. J'ai déjà tout à portée de main ici. J'utilise des matériaux pas très chers qui sont efficaces. Y'a plus qu'à se lancer, y'a plus qu'à faire les choses. Essayer des trucs. C'est cool, c'est fun. Tu vois la vigne, tu tailles, c'est des cycles d'un an. Un an pour avoir du raisin, t'as pas du vin. Et derrière, t'as encore un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans des fois plus. On le jura avec leur vin jaune et tout ça, là, avant d'avoir... J'aime le whisky, c'est pareil, c'est 3 ans, 7 ans, 15 ans en barrique, avant d'avoir quelque chose. Moi, c'est 3 heures avant d'avoir quelque chose. Ça marche pas, j'arrête, je ferme l'atelier, je redémarre. Des fois, je vais prendre ma douche, c'est fini, j'ai dit, c'est terminé. Puis 20 minutes après, j'ai remis les bleus, je suis retourné à l'atelier parce que j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'essayer un truc, et c'est reparti. Et ma journée s'arrête plus tard.
Donc c'est très satisfaisant, c'est mais gratifiant.
Mais oui, complètement. Alors, je dis pas qu'au début, c'est comme ça.
Bien sûr.
Mais ça fait 10 ans, comme je disais, que j'ai la tête dans le guidon. Techniquement, j'arrive à faire ce que je veux. En fait, globalement, maintenant, j'arrive à sortir les couteaux que j'avais envie de sortir il y a 10 ans.
Et que vous aviez dans la tête il y a 10 ans ?
Oui.
Vous saviez que c'était ça que vous vouliez faire ?
Ouais. Oui, parce que j'ai eu des couteaux japonais dans les mains des gens que j'estime être des maîtres. Des trucs, c'est des pointures. J'ai des couteaux à 1 500 € à la maison. T'as envie d'avoir, t'as envie de... Tu te dis, bah, c'est le patron, lui, quoi. Enfin, voilà, il fait ce truc-là. C'est ce que j'aimerais arriver à faire efficacement.
Est-ce que l'objet transmet, l'objet de ce maître japonais, porte en lui des messages qui vous ont appris ? Quand vous regardez cet objet, vous comprenez comment il a été fabriqué ? Est-ce que ça vous apprend ?
Oui. Ah oui. Oui, oui. Et puis, il y a ce truc où tous les couteaux ne vont pas à tout le monde. On parle pas de forme, ni d'esthétique, ni quoi que ce soit. Mais il y a une géométrie. Moi, je fais pas des couteaux fins. Je fais des couteaux qui sont assez épais. Je fais des couteaux qui sont assez dodus. Enfin, pour des couteaux de cuisine. Il y a des gens à qui ça convient très bien, il y a des gens à qui ça convient pas. J'ai des couteaux d'artisans japonais qui sont très très bien faits, mais que je pourrais jamais utiliser parce que c'est pas le type de géométrie que j'aime avoir. C'est pas le type de géométrie que j'ai envie de faire. Mais je vois le travail qui a été fait derrière et je peux que respecter le travail qui a été fait derrière. Je serais pas capable de le faire.
Oui, mais ça transmet un message et ça, c'est quand même plein d'espoir pour la transmission qui se fait malgré tout.
Oui, dans ce sens-là, ouais. Mais il faut avoir l'œil affûté pour
bien sûr. Faut
pour
avoir
voir
des
ces
gens
choses-là.
Qui cherchent.
Que... Oui.
Faut avoir l'œil curieux, affûté, passionné.
Ouais, parce que je te montre ça, tu vas pas forcément voir de choses
voir.
Intéressantes
non.
Dessus. Tu vois ce truc là-haut ? Ça, là. C'est un outil à bois. Ça a été fait par Shigefusa, c'est un artisan japonais, qui fait des couteaux de cuisine. Et son père fabriquait des outils à bois, et ça, ça a été fait probablement par son père. Et pendant longtemps, ça a été l'outil le plus cher de mon atelier.
Ah oui.
Y compris le marteau pilon et tout ça, tu vois.
Ça coûte combien ?
Bon, je pense que ça se vend un peu plus de 1000 balles maintenant.
Ah ouais.
Ce truc, quoi. C'est un outil.
Donc c'est un outil à bois avec deux manches.
Il n'y avait même pas le manche.
Donc c'est une lame qui se prend entre les deux mains. On dirait comme un grand boomerang aplati.
Ouais, c'est une plane.
C'est une plane.
Ouais, les ébénistes et les menuisiers comprendront
voilà.
Ce que c'est. Il n'y a pas de raison que ça vaille ce prix-là maintenant, mais ça vaut ce prix-là parce que ça vient de... du père d'un monsieur très très connu au Japon, un forgeron très très réputé, très connu.
Et on voit sa signature.
Ouais. Et là j'ai deux couteaux de lui, trois couteaux de lui je pense maintenant. Et c'est le père de la métallurgie moderne au Japon par exemple.
Ouais.
Voilà. Donc tu vois quand tu as un objet comme ça dans ses mains, bah, tu peux voir juste un truc un peu brut de forge, noir, un peu crasseux. Les couteaux c'est pareil et puis au final t'as une petite pièce d'histoire en fait dans ta
bien
main.
Sûr.
T'as un truc qui fait que ça a relancé la coutellerie moderne au Japon.
On n'a pas beaucoup parlé du bois. Comment le bois arrive dans l'aventure ?
Ah, j'ai une belle histoire sur le bois.
Ouais, j'adore les belles histoires.
Moi, j'utilise que du chêne pour mes manches de couteau, qui vient de la forêt de Troncé, qui sert à faire des barriques pour le vin. Je l'achète dans une scierie où mon grand-père travaillait. C'est du chêne qui est complètement sec, qui a été coupé il y a 30 ans. Et tu vois, c'est les planches qui sont derrière toi, là. C'est du bois qui est super sec, qui était censé faire de la barrique, et moi je l'achète chez le revendeur comme ça. Et donc c'est pas très beau le chêne, c'est pas très noble pour faire des manches de couteau. Mais par contre, une fois brûlé, moi je le brûle avec un oxygaz là. Ça enlève les parties très tendres qu'il y a dans le chêne.
Ouais.
Ça laisse apparaître que les parties très dures. Je brosse, ça donne de la texture. Et en fait, ça donne un grip très particulier, même quand il est mouillé, parce que le couteau de cuisine, il traîne toujours sur le plan de travail, dans le jus de tomate, dans le jus de viande, dans la plonge, dans le machin. Donc les cuisiniers ont toujours les mains mouillées. Et la notion de grip et de prise en main sur un couteau de cuisine est super importante. Et c'est un bois qui est lourd, mais sans être très très lourd. Et donc du coup, ça permet de bien gérer l'équilibre du couteau. L'équilibre du couteau, sur un couteau de cuisine, il est toujours 1, 2, 3 cm en avant du talon de la lame, en direction de la pointe. Pour qu'il tombe vers l'avant, mais pas complètement. Parce que s'il tombe complètement sur l'avant, c'est un couteau qui est lourd en main. S'il est trop dans le manche, c'est un couteau qui est trop léger en main, et en fait, on n'a pas vraiment un bon équilibre. Trouver le bon équilibre là où la personne va prendre le couteau fait que la personne va pouvoir couper pendant 8 heures par jour avec son couteau sans choper une tendinite, en fait.
Oui, donc en fait, vous en créez des outils, parce que ça, c'est juste l'outil du cuisinier. Vous restez toujours dans cette histoire d'usage et de fonction.
Ah, complètement. Le jour où les gens arrêteront d'utiliser mes couteaux de cuisine parce qu'ils sont devenus trop chers ou trop... chichi, trop chalala, tu vois, trop artistique.
Ouais, trop à collectionner, trop précieux, en fait.
Ouais, j'arrêterai.
Ouais.
Je ferai autre chose. Je transformerai ça en autre chose, je sais pas ce que je ferai, mais...
Bah, des outils, peut-être.
Oui, autre chose, ouais. Il y a un vrai marché pour faire l'outil de taille de pierre et l'outil de sculpture.
Ouais.
Je le dis, si demain j'ai 300 000 balles, je monte un atelier pour monter un atelier de forge dans lequel je pourrais pas aller travailler parce que j'aime encore trop faire des couteaux. Non, mais il y a un vrai marché à prendre, en tout cas, là-dessus, c'est certain, quoi.
Ok, ben je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont nous écouter et qui vont peut-être avoir envie de se lancer.
Ouais, parce qu'il y a de quoi faire.
Ouais, lancez-vous, ça c'est sûr qu'il y a un marché pour les outils forgés.
Oui.
Donc vous avez une démarche de récupérer du métal, vous avez une démarche d'économiser les ressources, d'être frugal dans votre façon de faire fonctionner l'atelier. Est-ce que tout ça, ça vient d'une éthique de responsabilité environnementale ou est-ce que c'est du bon sens pour vous?
Ah, c'est clairement du bon sens. Et il n'y a pas que de la récup quand même. Ce qu'on met sur les flancs du couteau, c'est entre guillemets pas mécanique, c'est pas essentiel à l'usage du couteau. Ce qui est essentiel à l'usage du couteau, c'est l'acier qui est au centre. Et là, par contre, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de récupération possible. Parce que là, il faut être certain de la nuance de l'acier qu'on utilise pour pouvoir appliquer le traitement thermique adapté et optimal à ce truc-là. Donc, on peut pas récupérer tout et n'importe quoi espérer en faire un couteau efficace. Par contre, ce qu'on met sur les flancs, ça a d'autres avantages, ça a d'autres intérêts, ça a d'autres applications. Et là, oui, on peut se permettre de récupérer certaines choses, quoi. Je les récupère parce que c'est efficace, en fait.
Ouais, si
je pouvais acheter des plats de fer pudelé qui font 30 par 6, je le ferais. Clairement, je le ferais.
Mais il se trouve que ça ne se trouve pas dans le commerce.
Non, ça se trouve pas, ouais. Il y a un autre marché à prendre, hein, là-dessus. Récupérer toutes les routes charrettes de France, aller passer au laminoir pour faire des plats, tout fait. Ça, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner aussi. Un micro-marché, mais c'est un marché quand même. Et donc, puis après, oui, bah, essayer de pas tout saloper. Je suis au milieu de la nature. J'ai pas besoin d'utiliser de produits particulièrement dangereux pour faire ce que je fais. Je forge au gaz. Je forge pas au charbon de bois pour des questions d'efficacité. J'ai pas une production de dingue, je travaille tout seul. Y a pas une vraie démarche écologique derrière tout ça, quoi. C'est juste parce que ça fonctionne comme ça que c'est à peu près propre.
C'est ce qu'on constate, en fait. C'est que par définition, par essence, les ateliers fonctionnent de façon écologique, par bon sens, en fait, la plupart du temps.
Ouais.
Alors justement, on parle techniquement. Vous diriez jamais le mot artistiquement. C'est pas un mot que j'imagine sortir de votre bouche. Mais c'est quoi un artisan d'art? Est-ce que vous êtes un artisan d'art?
Non, je pense pas, non. Je pourrais te citer des couteliers qui, pour moi, sont des vrais artisans d'art. Jürgen Steino, par exemple, en Allemagne. Pour moi, c'est le pape, quoi. C'est le mec qui fait des trucs incroyables. C'est beau, c'est... Il est dans des musées, d'ailleurs, tu vois. Donc, il n'y aura pas de raquin dans un musée.
C'est quoi la différence avec un raquin?
Bah, moi, c'est un outil. Ils font des belles pièces, quoi.
Et elles ne sont pas utilisées, leurs pièces?
Bah, elles sont parfaitement fonctionnelles, mais... je pense que le niveau de prix fait que les gens s'en servent plus.
C'est des pièces
une barrière psychologique qui fait. Ouais, c'est ça. C'est une barrière psychologique, je pense, qui fait que les gens s'en servent plus.
Quand on voit votre travail, la posture minimaliste de votre travail est en soi un geste artistique.
Ouais, je pense pas. Je pense que c'est vraiment la destination de l'objet qui crée sa forme. C'est-à-dire que d'autant plus pour un outil, un couteau, eh ben, on a besoin d'avoir une pointe à tel endroit, à telle hauteur. On a besoin d'avoir un talon de la lame poli, arrondi, légèrement rond, sur lequel on peut poser notre index. On a besoin d'avoir une proportion, en fait, entre la hauteur et la longueur. Alors, il y a peut-être une finalité esthétique. Clairement, c'est la destination qui crée la forme.
Mais il y a quand même un style Brian Rakin. On reconnaît un couteau Brian Rakin.
Eh ben, je dessine pas, ça. Tu peux prendre les 2-3 couteaux qui font à peu près 20 cm qui sont au bout de la table, là. J'ai pas un croquis, j'ai pas de gabarit, j'ai absolument rien. Je forge, je suis parti, c'est sûr et certain, de la même dimension au départ. Je forge le couteau, je le meule. Je fais pas de dessin sur mon plat d'acier pour sortir la pointe, pour dessiner ceci ou cela. Et à la fin de la semaine, j'ai fait 3 couteaux. Les 3 couteaux sont identiques. Ils font exactement la même taille, la même hauteur, la même longueur. Ils font les mêmes proportions. Quand on parle de géométrie, c'est si on coupe la lame, si on fait une tranche dans la lame comme ça, là, et on regarde la forme qu'on a ici, là. Si tu piges les épaisseurs à différents endroits sur les couteaux, c'est à quelques dixièmes de millimètre et encore qu'il y a une différence entre chaque
donc
couteau.
Donc c'est fou, non?
Ouais, mais c'est la main, justement. C'est pas une recherche artistique. Une recherche artistique, c'est un truc volontaire. Pas volontaire, mais que tu crées, en fait, que tu vas chercher. En fait, je fais ce que j'aime. Et j'aime les couteaux quand ils sont faits comme ça. Donc du coup, je les fais comme ça, bêtement, sans vraiment me poser de questions. Si véritablement il y avait une démarche artistique derrière ça, volontaire, je pense que je serais capable d'argumenter vachement plus que ce que je suis capable d'argumenter maintenant.
Est-ce qu'on peut être un artiste malgré soi?
Là, j'en sais rien. J'ai jamais vraiment eu envie de trop réfléchir à tout ça, en fait, je crois. De peur de me foutre dans une case, je crois. Et d'être influencé par ça.
Et que ça vienne polluer ton travail, ton geste.
Ouais, ou l'orienter d'une certaine façon que j'ai pas forcément envie, ou j'en sais rien.
Pour qu'il reste pur.
Bah, pour qu'il reste comme j'ai envie qu'il soit.
Ouais. Tu te laisses traverser d'une certaine manière.
Ah oui, complètement. Je te disais tout à l'heure, c'est explosif comme truc. T'as quelques minutes pour forger un couteau. C'est le moins de chauffe possible pour arriver à un truc fini, propre, dans les proportions que tu veux, avec la géométrie que tu veux. C'est donné au marteau, en fait, la géométrie. Tu vois, je la retravaille pas, la géométrie, en fait. La géométrie, elle est faite au marteau. Elle est faite au marteau pilon, en fait. Même pas à la main, elle est faite au marteau pilon. Elle peut être creuse au-dessus de les moutures, ensuite aller chercher les moutures. Les moutures peuvent être un petit peu bombées. Ça peut être très épais au niveau du talon, proche du manche, très très fin au bout, ou alors au contraire, plutôt régulier sur la longueur. Tout ça, c'est donné du départ. Et je pense que ça renvoie après à la forme générale du couteau. Mais non, je dessine pas. Je dessine pas. J'ai des carnets de croquis absolument partout.
Mais il y a quoi dans les carnets de croquis?
Des morceaux de couteaux, des couteaux. J'arrive pas à savoir si je dessine des couteaux que je vais faire ou si je dessine des couteaux que j'ai déjà fait.
Tout à fait.
Je sais pas. Je fais juste des couteaux que j'ai envie de faire. S'ils sont pas en ferraille, ils sont sur le papier. Et puis,
Mais alors, du coup, comment vous vous définissez, vous, dans votre métier?
Ah, comme coutelier forgeron.
Coutelier forgeron.
Ouais. Et définitivement pas comme coutelier d'art ou...
Oui, mais vous vous sentez, parce que je le sais, puisque ça fait des années maintenant qu'on se parle, qu'on se suit, que vous écoutez les podcasts, vous vous sentez tout à fait proche de tout ce qu'on raconte.
Ouais, parce que derrière tous les podcasts, derrière tous ces gens, ben moi j'écoute des artisans, j'écoute des mecs qui bossent, j'écoute des mecs qui se coupent, comme tu dis toujours, est-ce que vous avez mal à la fin de la journée, etc. C'est des gens qui se font mal, c'est des gens qui travaillent. C'est pas eux qui collent une étiquette artistique sur...
Non.
J'ai l'impression que t'as raté quelque chose en fait en tant qu'artisan si t'es obligé de blablater pendant 2 heures pour expliquer ce que tu viens de faire. Si le texte est plus long que le mode d'emploi, c'est pas bon quoi. À mon avis, t'es passé à côté d'un truc quoi.
Vous avez mal où vous le soir?
Moi j'ai mal au dos depuis toujours.
Toujours là?
Ouais, toujours un peu, ouais. Là, faut faire gaffe.
Et vous vous blessez où? C'est quoi vos plus belles blessures?
Moi, des petites brûlures de temps en temps. Des petites coupures à droite à gauche, mais non. Comparé à un ferronnier, par exemple, les ferronniers forgent du 40, enfin des morceaux de ferraille qui font 40 par 40, morceaux qui font 2 mètres de long. Moi, mes trousses de sandwich, elles font 50 grammes, quoi. Donc tu te fais pas mal avec ça. Si ça te tombe sur le pied, ça te tombe sur le pied et ça te fait rien, quoi. Au pire, ça brûle un lacet, c'est tout ce que ça peut faire. Donc non, on se fait pas mal, clairement. On n'a pas un métier. En taille de pierre, tu soulèves des blocs toute la journée qui font 800 kilos, 2 tonnes, des fois. Enfin, c'est des trucs absolument abominables.
C'est pour ça que vous avez été capable de porter des machines du diable, comme on a vu dans l'atelier aussi. C'est parce que vous avez cette historique de tailleur de pierre.
Ouais, ouais.
Racontez-nous ça, parce qu'on a visité la forge avant le podcast avec un marteau pilon qui fait 800 kilos.
Ouais, c'est un vieux pilon qui est arrivé par les Américains pendant le débarquement de la Seconde Guerre, et en fait qui est resté ici, qui a atterri.
Pourquoi les Américains apportaient leur marteau pilon?
Ils apportaient tous leurs outils pour réparer leurs machines, pour fabriquer leurs outils, etc. etc.
Ah, ouais.
Ouais. Ils venaient même avec leurs métaux, en fait, leurs matériaux.
Ah, oui.
Ouais. Ouais, ils débarquaient, ils avaient absolument tout.
Et donc on a gardé ces machines-là, enfin elles sont restées?
Ben elles sont restées, ouais.
Pourquoi ce marteau pilon en particulier, il vous attend plus quand vous avez vu l'annonce, j'imagine, sur un truc genre Le Bon Coin
ou... Ben c'est quelqu'un qui m'a contacté pour me dire qu'un copain à lui, coutelier, avait ça dans son atelier, qu'il avait besoin de débarrasser son atelier parce qu'il voulait faire autre chose dans son atelier, en fait. Il voulait pas forger, il a jamais forgé avec. Il l'a acheté, démonté, il est resté démonté pendant des années sans jamais servir. Et donc, avant qu'il le foute sur le bon coin, ben, il en a parlé à quelques potes, et un de ses potes m'a appelé moi, et on a été le chercher avec un autre ami, donc le fameux Eric Plazen.
Ah!
Et ouais. Ben ouais, un vieux marteau pilon qu'il fallait bouger, donc avec des rouleaux, avec des sangles à l'égyptienne, quoi. C'était clairement ça. J'ai pris celui-là parce qu'en fait, il a un fonctionnement qui est proche des fonctionnements des marteaux pilons japonais. Qu'on trouve pas en Europe, les marteaux japonais. C'est introuvable. On peut les importer, mais ça coûte une véritable fortune. Ça n'a pas de sens de les importer, en fait. Ça a vraiment zéro sens. Et celui-ci avait un fonctionnement qui était proche, ce fameux coup de fouet, là, que donne le martinet, en fait. Hein. C'est un martinet, ça s'appelle. Ça donne un coup de fouet à la masse quand elle tombe. Ça ne fait pas que écraser le métal, ça vient vraiment la fouetter.
Avec un rebond ?
Ouais, c'est un rebond, exactement, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, ça permet de déplacer la matière d'une certaine façon qu'un marteau pilon autocompressé ne fait
un
pas.
Un peu plus délicate ?
Non, je sais pas vraiment l'expliquer. C'est plus proche de ce qu'on est capable de faire avec la main et un marteau.
D'accord.
Voilà. Avec un main et un marteau, on tape pas de façon robotique comme ça. Il y a toujours un mouvement de coude, de poignet, d'épaule, etc. qui donne du punch à la frappe. Et le martinet fait ça.
Et donc, vous avez petit à petit constitué votre atelier, acheté vos machines. En les trouvant, ça se fabrique pas, ça s'achète pas. Faut les dégoter, ces machines-là.
Elles se trouvent très chères, hors de budget pour un coutelier.
Ouais.
Ouais. Mes premiers couteaux, je les vendais 80 euros.
Ouais.
Donc, il faut vendre un paquet de couteaux pour s'acheter des machines. Et puis, c'est pas forcément du matériel qui est adapté à la coutellerie. C'est souvent du matériel qui est adapté à la ferronnerie. Donc, il y a des trucs gros, lourds, des grosses machines. Et en coutellerie, on n'a pas besoin de si gros matériel. On a besoin de petites choses qui tapent vite, de petits pilons qui tapent vite, des petites forges qui chauffent en longueur.
Donc, vous bricolez des...
Ouais, ouais. Mes forges à gaz, c'est moi qui me la suis faite. Hein. Je l'ai faite dans une bouteille de gaz. Il y en a une autre, c'est dans un extincteur. Il y en a une autre, c'est dans une cuve de compresseur.
Vous avez bricolé votre atelier.
Exactement.
Et vous continuez à faire des outils parce que c'est un peu comme ça que ça a commencé.
Non, j'en fais plus. Je fais plus que des couteaux de cuisine maintenant.
Ouais.
Ouais. Je fais même plus de petits couteaux fixes. Avant, je faisais toujours des petits couteaux pour les chasseurs, des couteaux de table, des petits utilitaires de poche, quoi, comme des couteaux pliants, mais fixes. La même taille qu'un Opinel, par exemple,
mais fixes.
Finalement, un couteau de cuisine a pris le dessus, quoi.
Bon, j'en profite pour vous remercier, parce que vous avez fait un couteau à huîtres pour mon papa, qui est un breton mangeur d'huîtres, navigateur. Et vous m'avez fait cette amitié, c'était après tous les Instagram, les Insta Live du confinement, où on s'était pas mal parlé. Et vous m'avez fait ce cadeau-là pour papa, et merci, parce que je sais comme c'est difficile pour vous de sortir de votre rythme de production. Et c'était généreux de votre part.
Bah, c'est même pas que c'est difficile de sortir de ce rythme-là, c'est que... Instagram, comme on disait tout à l'heure, c'est un chouette outil de communication, mais en même temps, c'est un outil qui est tout le temps ouvert. C'est-à-dire que les gens voient absolument tout ce qu'on poste dessus, et ont un avis sur tout, et donnent un avis sur tout. Les gens attendent mes couteaux. Mmh. Et dès qu'on se décale un petit peu, dès qu'on fait quelque chose d'autre, les gens comprennent pas pourquoi est-ce qu'on le fait pas pour eux.
Ah oui. Mais vous êtes pas du genre à vous attarder sur ce qu'on pense et ce qu'on attend de vous ?
Non, pas trop, mais quand même, ça peut, sur des semaines un peu faibles, où tu fous 4 couteaux à la poubelle, genre de truc, de temps en temps, t'es un peu fébrile le vendredi soir, et si t'as tendance à lire les messages un peu de travers, des fois, ça peut être un peu compliqué, quoi.
Ouais, mais en même temps, moi, ça me touche que les gens prennent le temps d'écrire des messages, de s'impliquer, même si c'est pas toujours positif, c'est quand même un intérêt global sur le métier et sur le savoir-faire qui me touche.
Je sais pas.
Vous le prenez pas comme ça, vous.
Non, je le prends pas comme ça. J'ai des clients qui sont fantastiques, hein, qui sont devenus des amis, et puis il y a des gens que j'ai pas envie de rencontrer.
Vous sauriez transmettre ce que vous avez construit, appris ?
Ben, c'est vachement compliqué. J'en ai parlé encore cette semaine avec quelqu'un qui voulait venir faire un stage.
Ouais.
Alors, je serais pas contre faire des stages découvertes. Voilà, où tu viens taper de la ferraille un petit peu une journée comme ça, mais ça fait pas apprendre le métier aux gens, parce que moi, ça fait 10 ans que j'ai la tête dedans, 10 ans que je... Là, ça fait un an et demi à peu près où j'ai levé le nez, où j'arrive à prendre un peu de recul. Mais ça fait littéralement 10 ans que je lis des choses, que j'écris des choses, que j'essaye des choses. Comme je disais, j'ai jamais rien fait à l'école, quoi. La seule documentation qu'il peut y avoir sur ces aciers-là, elle est soit en allemand, soit en anglais. L'allemand, c'était impossible pour moi de l'apprendre. L'anglais, j'ai dû l'apprendre. Donc j'ai dû apprendre à lire des thèses et des doctorats en anglais.
Ah oui.
Ouais. Des thèses en français, etc. Et arriver à interpréter ce qu'ils étaient en train de dire pour essayer de l'appliquer le lendemain matin à mon travail, quoi. Ça, Eric Plazen a été pour ça d'une grande aide, hein, parce que c'était quelqu'un qui avait 15 ans d'avance sur moi, sur cette recherche-là.
Mais lui, il a réussi à vous transmettre, quand même.
C'est-à-dire que on s'appelait une fois par semaine, Je lui posais des questions, et quand je raccrochais le téléphone, j'avais pas de réponse à ma question, et j'avais 10 autres questions supplémentaires. Ouais. Et quand je retournais à l'atelier après, j'essayais de dénouer tout ça, et je revenais avec une autre question, peut-être la semaine d'après. Mais j'avais répondu à peut-être 5 ou 6 des autres, et puis ainsi de suite, en fait. Donc, jamais il répondait directement. Il me disait pas c'est blanc ou c'est noir. Il me disait pas c'est A ou c'est B. Jamais. T'es toujours, ah bah si ça fait ça, donc t'as créé ceci, donc ça va influencer cela, donc ça va faire ceci, et puis à la fin, bah ça va péter. Ou ça va merder, ou ça va marcher. Et puis derrière, il fallait cogiter, il fallait tortiller ça dans tous les sens pour essayer de dénouer le truc. Donc du coup, je me vois pas transmettre directement, dire aux gens, ben viens à l'atelier, je vais t'apprendre le métier. Ça me semble irréalisable, en fait.
Ok.
Ouais. Alors un apprenti, peut-être, parce qu'il passerait vachement de temps à l'atelier ou quoi que ce soit, mais tu vois l'atelier où je suis, tu vois là où on est, tu vois l'autre atelier,
ouais,
c'est pas possible.
Petit.
Puis c'est pas possible de prendre un gamin, quoi.
Non.
Les machines sont pas aux normes. Ça me paraît quand même vachement compliqué, quoi.
Ouais.
J'aimerais bien, pourtant, il y a des choses que j'aimerais bien. Tu vois, l'affûtage, le polissage, c'est des choses que j'ai développées, que j'ai appris tout seul aussi en 10 ans. Et, c'est des choses, ça, je pourrais le transmettre. J'aime aller dans les boutiques pour le montrer, j'aime le montrer aux gens, ce truc-là. C'est quelque chose qui est abordable et qui est accessible techniquement.
Et vous écrivez quoi ?
Mes notes.
Vos notes techniques ?
Ouais.
Ça, c'est de la transmission.
Ah, je pense que c'est particulièrement
illisible.
Imbuvable pour quelqu'un qui est pas moi. Ouais. C'est moi je trouve ça très 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 compliqué la transmission. Déjà je trouve que faut avoir un ego démesuré pour te dire que tu vas pouvoir transmettre tout un tas de choses comme ça. J'ai l'impression de rien savoir. Tu vois, ça fait 10 ans que j'ai la tête dedans vraiment tout le temps et au final j'ai tellement encore de questions que ça me paraît très chelou de donner des réponses aux gens alors que je me pose encore certaines fois les questions. Tu vois, avec Eric au téléphone. Il y a des choses qu'il avait arrêté de faire sur ses couteaux. Moi, je les faisais par habitude. On en a discuté et il est revenu à les refaire. Et du coup, après, c'est lui qui m'appelait et qui me disait « Est-ce que quand tu fais ça, ça fait ça ?» Tu vois ? Et ça, pour moi, c'était de la transmission. Mais faut qu'en face de toi, fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait de l'expérience, tu vois. Transmettre à un apprenti, à un jeune, à quelqu'un qui connaît pas le métier, je vois pas ce que je pourrais faire, en fait.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils arrivent à vous avec un certain niveau technique. Mais ce que vous disiez, c'est qu'il n'y a pas d'école pour apprendre ce que vous faites.
Il y a 2 écoles de coutellerie en France. Il y a un CAP à Thiers.
Ouais.
Tous les ans, à la même époque, il y a des jeunes qui m'appellent en me demandant s'ils peuvent venir en stage, s'ils peuvent venir en apprentissage ou quoi que ce soit. En fait, le problème, c'est que même s'il y avait des écoles, bah, il n'y a pas d'endroit où faire ta formation après, quoi.
Ouais. Arrivé à une certaine maturité technique, on peut peut-être mieux bénéficier des conseils entre pairs, en fait, mais c'est plus une transmission...
Je pense, ouais, que c'est comme ça.
À égalité.
Ouais.
C'est un des sujets auxquels on réfléchit à la transmission entre pairs, qu'elle puisse aussi être financée d'une certaine manière pour que le temps que ça prend de s'apprendre les uns aux autres puisse être financé aussi par les dispositifs de formation.
Oui, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps et ça fait faire des kilomètres et ça fait faire des essais. La dernière fois, je suis allé chez le ferrailleur pour emmener mes morceaux qui étaient cassés, mes essais, mes chutes de couteau. Il y avait 150 kilos. Et quand on voit qu'un couteau fini avec le manche, ça fait 150 grammes, tu vois, ça fait quelques couteaux qu'on met à la poubelle.
Ouais.
On va dire qu'il y en a une moitié de foutus, de ratés. Et l'autre moitié, c'est des tests et des essais, en fait. Avec toutes les bornes comme ça, là, que ça demande pour chaque couteau. Une borne comme ça, ça vaut en moyenne 5-7 euros.
Ah oui, 5-7 euros. Et là, je regarde, il y a une petite centaine de bandes et c'est des bandes de polissage.
Ouais, c'est des bandes de... Ouais, c'est ce qui nous sert à faire les émoutures, à donner la forme du couteau aussi. Au marteau, on peut pas lui donner sa forme définitive, vu que sur un couteau de cuisine, on est sur des épaisseurs très très fines. Si tu tapes sur la tranche, tu l'écrases, tu le froisses comme du papier, en fait. Donc ça marche pas. Donc t'es obligé de le détourer avec des abrasifs, etc. etc. Enfin, il y a des consommables, quoi. C'est des consommables.
On a parlé des anges gardiens, déjà. Est-ce qu'il y en a dont vous avez envie de nous parler ? Et qu'on a pas, à part Eric, qui est beaucoup revenu.
Eric, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup compté pour moi. Et qui, sans lui, je pense que je ferais pas de couteau. Après, il y a Hakim Wirtz, qui est un Allemand, qui est un métallurgiste. C'est un mec qui travaille dans une mairie, donc il est fonctionnaire. Je sais pas ce qu'il fait. Il travaille dans un bureau. Et puis, il est passionné de métallurgie. Et il est reconnu mondialement pour ça. C'est un vendeur d'acier. Là, je sais pas, peut-être une trentaine de tonnes d'acier spéciaux, toujours lié à la coutellerie chez lui. Enfin, c'est un truc.
Ah oui.
Oui. Et en fait, il est vraiment pote avec la famille Lohmann, qui a une aciérie en Allemagne. Il fait fabriquer par Lohmann des aciers selon ses caractéristiques à lui. Donc, il fait la recette. Ben voilà, moi, je voudrais bien faire un acier avec ceci, cela, cela, un peu de manganèse, un peu de chrome, un peu de tungstène, un peu de machin, un peu de truc. Il envoie ça chez Lohmann, et puis, ben, quelques mois ou années plus tard, ben, il reçoit une livraison de plusieurs tonnes d'acier. C'est un monsieur qui fait du damas, par exemple, il fait des trousses de damas de 700 kilos. Littéralement incroyable.
Et c'est intéressant, ce rapport à l'argent qui n'est pas un sujet, en fait. Lui, il fait absolument pas ça pour gagner sa vie, s'enrichir. Il a une espèce d'obsession sur une matière et sur un métier. C'est un peu comme vous, je pense, et c'est intéressant aussi de dire dans cette vie et ce destin d'artisan. Alors, c'est vrai que nous, on parle beaucoup d'artisans d'art, d'artisans, en tout cas, d'hommes de la matière. Quelle est la place de l'argent pour vous ?
J'en ai jamais eu. Je suis issu d'une famille de prolos, depuis toujours. Tous les boulots que j'ai faits, j'étais payé au SMIC. Et j'en ai jamais manqué. Il y a eu des périodes un peu plus difficiles que d'autres, mais c'est pas ça qui me fait aller travailler, quoi. Ouais. Alors maintenant, c'est confortable, hein, parce que je sais que ça se vend bien, je sais que je pourrais multiplier par deux mes prix, je pense. Ça poserait pas trop de problèmes, j'en ferais peut-être moitié moins, du coup.
Ouais.
Bêtement. Plutôt que de continuer à faire pareil et de gagner deux fois plus, j'en ferais peut-être deux fois moins, j'en sais rien.
Et pourquoi vous le faites pas ?
Non, parce que j'aime bien que ça reste abordable quand même. J'aime pas trop cette course au pognon, en fait. C'est un peu à la mode, les couteaux de cuisine. En ce moment, chez les couteliers, dans les salons de coutellerie, on en trouve de plus en plus. Sur Instagram, on en trouve de plus en plus. À des prix qui peuvent aller très très haut pour pas grand chose. Et j'ai pas trop envie d'aller là-dedans. Je préfère être celui qui dure plutôt que celui qui explose comme ça et qui... Il y a quelques couteliers pour qui c'est mérité. Il y a des gens qui sont couteliers depuis 30 ans, qui font la même chose depuis 30 ans, qui font des couteaux incroyables depuis très très longtemps, qui sont reconnus mondialement. C'est normal que le prix soit proportionnel
à leur travail, ouais, à tout le temps de recherche.
À tout ça, quoi. Ça me paraît complètement normal, mais non, tant que j'en ai assez pour vivre, c'est bon, quoi.
Ouais. Alors, c'est pas ça qui vous fait vous lever le matin. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, vous ?
Eh ben, c'est fun de faire des couteaux. En vrai, c'est fun. Hein. Moi, je suis super content à la fin de ma journée quand j'ai fait un couteau qui est beau. Ils sont tous plus ou moins pareils, mais il y a des petits détails qu'on voit quand on a l'habitude de les regarder, des petites ondulations par-ci, des petites courbes par-là qui se raccordent bien, des choses où les proportions sont belles, la géométrie est bonne. Puis le fait de faire un outil qui fonctionne n'est pas juste beau, parce que on fait un outil, mais le couteau, faut qu'il soit utilisé, faut qu'il soit utilisable, faut qu'il soit plaisant à utiliser, faut que le chef, il me rappelle le 15 août en me disant, ben, hier j'ai fait 3 cagettes de tomates, et puis ça coupe toujours, et puis ça fait 8 jours que je l'ai pas affûté, et puis je fais toujours ma viande, je fais toujours mon poisson, et tout ça, ben, j'ai gagné, quoi. Le traitement thermique est bon, la géométrie est bonne, le mec est content de s'en servir, l'équilibre est bon, c'est gagné, c'est cool. Moi, c'est ça qui me fait plaisir, en fait, c'est de faire des couteaux qui donnent du plaisir aux gens. Et...
Alors, je vais poser une question complètement narcissique, que je pose jamais, mais comme je sais que vous êtes un des auditeurs fidèles du podcast, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce podcast ? Pourquoi vous l'écoutez ? Pourquoi c'est important de continuer ?
Eh ben, c'est vachement important, je trouve, même, parce que on écoute des gens de métier parler de leur métier, et c'est des gens à qui on donne jamais vraiment la parole aussi profondément et aussi longtemps sur aucun média, sur aucun support. Et à un moment, je pense que je t'ai dit, ces trucs-là, en fait, vous devriez les synthétiser un peu, couper certaines parties et envoyer ça dans les collèges, en fait. Moi, j'ai une gamine qui est en 3e, j'ai un gamin qui est en 5e, il n'y en a aucun des deux qui sait ce qu'il va faire. Et là, en 3e, il faut qu'elle choisisse une direction, il faut qu'elle choisisse quelque chose qu'elle va faire. Elle va rencontrer un conseiller d'orientation. Moi, j'irai pas.
Mauvais souvenir.
Ah ouais, je peux pas, moi. On sait comment ça se passe. Hein. Ils vont avoir 3 prospectus, et puis ils vont en donner 2, et puis elle va en choisir un, et puis ça fera une direction, et puis dans 10 ans, elle changera complètement d'orientation parce qu'elle se rend compte que c'est pas du tout ça qu'elle a envie de faire ou qu'il a envie de faire, et puis c'est pas 10 ans de perdu parce qu'elle aura fait quelque chose d'intéressant pendant 10 ans, mais c'est un peu bête, quoi. Donc ouais, le podcast, eh ben pour moi, c'est important parce que tu donnes la parole à des gens à qui on donne pas la parole aussi longuement, d'habitude. Tu fais parler les gens d'argent, tu fais parler de là où t'as mal, tu vois, tous ces trucs-là, on n'en parle jamais, quoi, on dit jamais. On parle de débouchés, on parle de salaire, on parle d'évolution, on parle de grands groupes, on parle de... Jamais on parle de tous ces petits trucs comme tu le fais, toi, donc ouais.
Et ben justement, on sent les mêmes choses, hein. C'est ce besoin d'orientation pour les très jeunes, et dans les formations métiers d'art... Il y a un manque de candidatures sur les formations, par exemple, en tournage d'art à Boulle.
Ben oui.
Il y a un manque de candidatures et il y a un manque de connaissances de ces formations-là sur les 12-15 ans, sur les collégiens. Donc, on a complètement identifié ce besoin et on se met en marche pour y répondre. Alors, peut-être faire des podcasts plus courts, mais en fait, on va réfléchir surtout à faire des supports vidéo sur TikTok pour parler à cette génération qui est sur TikTok. Et ben voilà, on va dire la même chose, hein,
ben oui.
Mais on va le dire plus vite. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, en 30 secondes, un jeune de 12 ans.
J'en sais rien, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'arrive pas à m'en dépatouiller avec mes enfants, quoi. C'est que pour moi c'est dramatique, en fait. C'est dramatique parce que bah tu l'as bien vu, on limite les heures d'atelier. Là cette année par exemple, ils vont doubler le temps de stage pour un lycée à côté de chez nous. Alors je sais pas si c'est national, régional ou quoi. Ils doublent le temps de stage en entreprise. Mais pas pour les bonnes raisons, en fait. C'est juste parce qu'ils n'ont pas de prof. Et donc, ils ont des trous à boucher et ils savent pas quoi faire des gamins pendant qu'ils n'ont pas de prof. Mmh. Donc, on les envoie en entreprise. Mais donc, on refile le bébé à l'entreprise et c'est à l'entreprise de se démerder avec un stagiaire qui en a probablement un peu rien à faire. Mmh. Tu vois, c'est encore une fois, on met un pansement sur un truc qui est cassé et c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Il n'y a aucune entreprise qui fonctionne comme ça. Le boulot d'une entreprise, c'est d'anticiper tout ça. C'est d'anticiper l'avenir. C'est de savoir que ta vieille machine, elle risque de tomber en panne. Et que si t'as pas 10 000 balles dans la poche, quand elle tombe en panne, ben, t'es foutu, quoi. Parce que ton entreprise, elle tourne plus. T'as pas les 10 000 balles pour acheter la machine. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas mendier à droite, à gauche pour avoir un truc, un bidule. Enfin, ça marche pas, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on fait l'éducation de nos enfants. En tout cas, que l'éducation nationale gère les métiers d'art et tous les métiers de façon générale, en fait. C'est qu'on attend que de se rendre compte que, ah ben, on n'a plus un médecin, ah ben, on n'a plus un plombier, alors comment on fait? Eh ben, on va rouvrir les portes de ces écoles-là, on va foutre des gamins qu'on n'a rien à foutre. On nivelle tout par le bas, j'ai l'impression, on crée une médiocrité. Parce qu'on fait ça dans l'urgence, alors qu'on aurait anticipé tout ça.
Et alors justement, avec plein d'énergie et d'envie de bien faire tous ensemble, on va parler avec l'éducation nationale et avec les conseillers d'orientation. Il y a des chefs conseillers d'orientation qui parlent à tous les conseillers d'orientation.
Mais je me doute.
Alors déjà, on leur propose de diffuser évidemment les podcasts qui sont libres de droit et qui peuvent diffuser. Et tous ces contenus, on va essayer de les créer aussi en les consultant, en voyant quel type de contenus vont pouvoir être diffusés dans les écoles. Parce que là, maintenant, il faut qu'on avance tous ensemble. Et je crois qu'il y a cette volonté quand même de faire connaître les métiers. Bon, on est là, quoi.
Bah oui, bon courage. Bon courage, mais ça me paraît nécessaire. Nécessaire. Si moi, à l'époque, à l'école, je le dis régulièrement, si j'avais connu la ferronnerie d'art, j'aurais pas fait un BEP électronique, je serais probablement pas coutelier maintenant. Ouais. Plein de métiers comme ça. Plein. Pour moi, Boulle, c'était aussi compliqué de rentrer à Boulle que de rentrer à l'ENA, tu vois. Ouais. Pour moi, c'était deux trucs, c'était pas possible. Boulle, c'était réservé à l'élite de je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Alors que non, en fait.
Mais non. Et il y a des formations qui sont là et il n'y a pas de candidats.
C'est incroyable,
ça. C'est fou. Avec des profs incroyables, des machines incroyables, des ateliers extraordinaires.
Pourquoi on ne le sait pas, ça? Moi, je trouve ça fou, quoi.
Alors bon, c'est l'heure de la fée clochette. On connaît une fée des métiers d'art. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique?
Eh ben, j'ai jamais compris cette question.
Oui, c'est vrai.
Ouais. J'ai jamais su si tu posais la question à moi personnellement, qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour moi,
pour
qu'est-ce qu'elle peut faire pour les métiers d'art en façon générale. Si c'est pour moi, que ça continue comme ça. Moi, je demande rien de plus, c'est juste que ça continue à rouler tranquillement. Et... J'ai pas des ambitions d'extension, je sais pas quoi. J'ai juste envie que ça continue comme ça, ça sera très très bien, je me lasse pas. Que mon dos me suive encore un petit moment et ça fera l'affaire, c'est tout. Après, si c'est de façon plus globale, qu'elle aille secouer un peu les conseillers d'orientation, justement.
Secouer gentiment.
Secouer gentiment, mais leur expliquer qu'il y a des choses qui existent. Et.
Moi, c'est ça que je montrerai en 30 secondes sur TikTok, c'est ton visage tout allumé.
Ouais.
C'est juste ça.
C'est mes néons.
Ouais. Non, c'est pas les néons. Merci Brian Raquin.
Merci Raphaël.
Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project.
Et l'acier ? On n'a pas trop parlé, mais je le reçois. Voilà, ça c'est l'acier que j'achète. Donc pour la petite histoire, Hakim Wirth, dont je te parlais tout à l'heure, le métallurgiste allemand, lors d'une soirée un petit peu arrosée avec Eric Plazen au salon de Jean Blou en Belgique, un salon de coutelier, se disent que ça serait bien de faire un acier plus propre que l'acier des Japonais. Et Hakim, il dit, bah allez, on y va. Et ils ont défini tous les deux le taux de carbone qu'ils voudraient... le taux de manganèse, et puis, puis quelques mois après, il y avait 700 kilos de cet acier-là qui est sorti, avec 1,45% de carbone, très peu de manganèse, pratiquement rien dedans, plus propre que les aciers japonais, plus propre que les aciers suédois. Et Hakim en a gardé 500 kilos, je pense. Eric en a pris 200. Et puis après, le reste a été vendu au détail par Hakim, un petit peu partout dans le monde. Il a mis des années parce que les gens galèrent à le tremper. C'est très difficile à tremper. Ça a failli lui rester sur les bras. Et quand Eric est décédé, j'ai pu acheter le stock d'acier qu'Eric avait chez lui. Donc j'ai récupéré pratiquement 200 kilos de cet acier-là. Pas tout à fait 200 kilos parce qu'il en avait utilisé, il en avait donné, il en avait revendu, etc. etc. Donc j'ai pu acheter ça. Et comme c'était un acier qui était compliqué, mais qu'il y avait quand même de la demande, Hakim a décidé de refaire une autre série de cet acier-là avec un tout petit peu moins de carbone. Donc au lieu d'avoir 1,45% de carbone, il en a fait un avec 1,25% de carbone. Et ça, il en a fait une tonne. Il a rajouté un petit peu de manganèse pour que ce soit un petit peu plus simple à tremper à l'eau quand même, ou avec des huiles rapides. Et du coup, bah, j'ai racheté tout le stock qu'il avait en grosse épaisseur. Pour forger, c'est mieux d'avoir des grosses épaisseurs plutôt que du 2 ou 3 mm et tout ça, c'est chiant à forger. Moi, j'aime bien quand il y a 6, 7 mm, 8 mm. Et donc, j'ai pu acheter le stock qui lui restait. Mais comme je disais, cet acier-là n'est pas tolérant du tout, il n'y a rien dedans, c'est fer carbone, il y a 1,45% de carbone dedans et c'est tout. Il n'y a pas de manganèse, ou très peu, en fait ça trempe très très mal. Et c'est pour ça qu'on est obligé de tremper à l'eau. Tremper à l'eau, on est à 770 degrés et il faut qu'en gros en une seconde, on soit revenu à température ambiante. Bah, une trempe à l'huile, on va mettre 7-8 secondes. Et du coup, tu passes à côté de la trempe. C'est pas trempé. Déjà là, même avec ces aciers-là, à l'eau, même comme ça, c'est très compliqué en fait d'avoir une trempe homogène. Le gros de mon travail, ça a été de créer un mix d'argile en fait que je mets en barbotine sur la lame qui me permet d'éviter la caléfaction. Tu sais, quand tu trempes un métal très chaud dans de l'eau, l'eau par exemple c'est de 35-37 degrés, quand tu plonges un morceau de métal à 770 dedans, l'eau se vaporise au contact de l'acier, en fait crée une bulle d'air autour de ton acier, et du coup ton acier est en contact avec de l'air et pas avec de l'eau, donc le refroidissement est lent. Et en fait, cette couche d'argile, qui est un mix bien particulier que j'ai mis des années à mettre au point, fait que cette vaporisation, en fait, cette couche de vapeur se brise très rapidement et l'eau rentre en contact instantanément avec la lame. On a l'image du coutelier qui plonge la lame dans l'eau et ça fait pshhh. La réalité, c'est que c'est une détonation, quoi. Ça fait pas pshit du tout. Ça fait un gros bruit. Des fois, ça me fait peur même. Ça me fait sursauter. Parce que la forge fait pas de bruit. Il y a juste un souffle de gaz, tu vois. Je suis tout seul, c'est dans le noir total, parce qu'il faut être dans la pénombre pour lire la température sur la lame. Plonger la lame dans l'eau, d'un coup sec, ça fait une explosion dedans, quoi. Et là, si ça sort pas en deux morceaux, tu sais que t'as gagné. Et ça, c'est un truc... Ouais, ça me fait vibrer à chaque fois, ça me donne des frissons juste d'en parler, ça fait 10 ans que je le fais tous les jours. La forge, elle est là. J'ai juste mis un bout de ferraille dedans. L'avantage du gaz, c'est que ça démarre vite et ça s'éteint très vite. C'est qu'une fois que tu as coupé le gaz, eh ben, le temps que la forge refroidisse, il se passe, enfin, c'est 10 minutes et puis après c'est froid. Il n'y a pas de départ d'incendie, il n'y a pas de risque de feu ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vachement bien. Ça ne sert pas encore pour que ça chauffe.
Là, c'est le feu qu'on entend. Et on dirait qu'il met les mains dedans.
Aux alentours de 500 degrés, on dit en gros c'est rouge naissant. Rouge commence à apparaître sur la lame. 1000 degrés, c'est blanc. Et c'est propre à chacun, en fait. Hein. C'est chacun va le voir différemment, en fait. Ce blanc ou ce rouge naissant, ce rouge cerise. Chacun va avoir des noms pour ces trucs-là. Il y a ce qu'on appelle le point de Curie dessus. L'austénisation, en fait, c'est le moment où tu transformes l'austénite en martensite. C'est ce que tu cherches à avoir, en fait, ce mélange-là, lors de la trempe. C'est un changement de phase, en fait, dans l'acier. Et ce changement de phase est énergivore. C'est-à-dire que tu vas monter ta lame à température, elle va monter à une certaine couleur, et arriver à 770 degrés, c'est la température à laquelle cette transformation a lieu, comme elle est énergivore, et que la seule énergie qu'il y a disponible dans l'acier, c'est la chaleur, ça va pomper de la chaleur, donc ta lame va s'assombrir dans ton feu, alors que tu es sur un feu qui nourrit quand même, hein, qui donne de la chaleur, ta lame va s'assombrir, donc c'est-à-dire qu'elle perd de la température, et là la transformation se fait, et ensuite elle revient avec sa température, avec sa couleur plus vive, et là tu sais que ta transformation elle est faite. Et ce point de Curie, c'est un point d'amagnétisme en fait. D'un seul coup, ton acier il est plus magnétique. Et donc si j'ai choisi ces aciers-là au départ, c'est parce que je savais qu'ils se trempaient à 770 degrés, et que 770 degrés c'est le point de Curie, et le point de Curie c'est le point d'amagnétisme, donc c'est plus magnétique. Donc avec un simple aimant, quand t'es à 770 degrés, si t'approches de ta lame un aimant, il colle plus dessus. Donc tu sais que tu es à la température de trempe. Tandis que les autres aciers qu'on utilise principalement en coutellerie se trempent un tout petit peu plus haut. Cette différence qu'il y a entre 770 et un tout petit peu plus haut, eh ben, c'est vraiment flou et c'est très difficile à cerner. Et je voyais pas comment au début je pouvais définir ce que j'étais à 770 avec l'aimant, j'y suis, mais 820 qu'il fallait que je vise pour être au-dessus, t'as plus de repères en fait, visuel, ni technique, tu vois, l'aimant ne colle plus toujours, mais il colle plus à partir de 770, donc à 820 degrés, il colle toujours pas. Et je me suis dit, bah, je peux pas m'intéresser à ces aciers-là, parce que les 820 degrés, je vais jamais être capable de les définir précisément à quel moment est-ce que je vais y être, quoi. Donc, je vais rester avec des aciers qui trempent à 770. Parce que pour moi, 770, température de perte de magnétisme, je savais exactement que j'y étais, quoi.